Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris sur 95 MHz 6, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS, et pour le monde entier sur le site, sur notre site internet radiocourtoisie.com. Vous écoutez le libre journal de Serge de Bekech, dirigé aujourd'hui par Daniel Amiche, avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 15 novembre 2006 de 18 à 21h, en différé jeudi 16, dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 21 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82 ou par courrier électronique à contact@radiocourtoisie.com.
Eh bien, bonsoir à nos chers auditeurs qui nous font l'amitié de nous retrouver en direct depuis le studio Jean Ferré de Radio Courtoisie. Je salue cette majorité invisible qui nous écoute. Elle est au sens propre, au sens figuré, puisqu'aujourd'hui, il n'est plus question que de minorité visible. Il faut donc bien qu'il y ait aussi une majorité invisible, et c'est celle qui nous écoute ce soir avec ferveur et avec chaleur. Alors, je salue bien sûr notre chère Victoria.
Bonsoir, Daniel.
Dont la voix mellifluée a charmé des générations de collégiens.
De collégiennes.
Ah oui, c'est mieux ça. Bon, dans ce sens-là, c'est meilleur. Et alors, je salue donc également la présence dans le studio. Alors, c'est un peu dans l'ordre d'apparition. Comment est-ce qu'on peut dire l'ordre où ils vont s'exprimer au micro. Le professeur Xavier Martin, qui nous fait l'amitié de revenir nous voir pour un livre. Alors, je sais pas. C'est un livre. Le titre, c'est Voltaire méconnu. Voilà, c'est un titre qui est un peu prime sautier, Voltaire méconnu. C'est le livre qu'il faut avoir lu d'ici de la fin de l'année. Puis attention, parce qu'il y aura interrogation écrite au 31 décembre, pour ceux qui ne l'auront pas lu. Et puis également, notre cher camarade l'abbé Grégoire Cellier.
Bonsoir.
Bonsoir, monsieur l'abbé, qui vient nous parler, comme il le fait tous les deux mois. Car je rappelle que quasiment je vous invite tous les deux mois pour parler du dernier numéro de Fidélitaire, qui est en l'occurrence le numéro 174, et qui contient cette fois-ci, la dernière fois c'était sur l'histoire, c'était très intéressant, et là c'est un dossier qui m'a encore plus davantage, parce que c'est un dossier sur l'apologétique. Et alors nous allons voir tout à l'heure avec les auditeurs, et grâce à vous, cher abbé, ce que c'est que l'apologétique, pourquoi on a abandonné cette chose magnifique, et pourquoi aujourd'hui elle revient, peut-être davantage aux États-Unis qu'en France, mais vous contribuez à sa réacclimatation dans le climat spirituel et intellectuel français. Mais pour que le doute ne s'installe pas dans l'esprit de nos auditeurs, que j'ai reçu cet après-midi un courriel d'une auditrice. C'est fou, les auditeurs connaissent votre courriel, ils vous envoient des trucs, bon, c'est pratique, bon, me disant, mais Serge de Bekech a été viré de la radio. Pas du tout. Mais si, parce que j'ai vu sur le programme que c'était vous qui dirigez le libre journal. Mais attendez, ça fait bientôt 14 ans que je dirige le libre journal de Serge de Bekech. Alors pour que vraiment cette majorité invisible que nous aimons tant et qui nous aime tant, qui aime tant Radio Courtoisie, en soit absolument assurée, il n'y a pas de coup d'état contre Serge de Bekech, eh bien nous l'avons au téléphone. Bonsoir Serge de Bekech.
Bonsoir.
bonsoir, cher ami.
On est très content de vous avoir au téléphone.
M'entendez-vous ?
Ah bon, je vous entends, mais voilà. Comme si vous étiez à côté de moi, à me bercer dans mon berceau. Donc je suis content de vous avoir. J'ai bien précisé que vous étiez toujours le patron de ce libre journal.
Et
il y a intérêt, n'est-ce pas ? Et jusqu'à présent, tiens, je vais vous faire rire un peu, Serge, ça va détendre l'atmosphère. Jusqu'à présent, je me considérais comme, quand on me disait, mais qu'est-ce que vous faites dans le genre de pécage ? Je suis sous-locataire. Sous-locataire. Ouais. Mais alors, je sais qu'officiellement, maintenant, le conseil d'administration m'a nommé membre suppléant. Henri de Lesquin avait eu la gentillesse de me recevoir lundi soir dans son libre, le jour de libre journal qu'il dirige, et m'a donc annoncé devant la France médusée, et moi-même j'étais pas à la moitié du radeau de la Méduse, que j'étais membre suppléant. Alors, j'ai dit comment ça, membre suppléant.
Tu peux me demander mon avis.
Qui
va toucher le loyer de la location maintenant.
Et je dis membre suppléant. Et pourquoi pas proteste tant que vous y êtes. Bon, j'avoue que c'était pas très fin comme remarque, mais enfin ça a eu l'avantage.
J'avais compris prothèse.
Oui, je suis mon cher Serge, je suis votre prothèse.
J'en ai bien besoin.
Alors bon, j'avoue que ma remarque était pas très fine, mais il est rare que je fasse des remarques extrêmement fines. Ça avait l'intérêt de détendre l'atmosphère dans des journées qui sont quand même des journées un petit peu on en a un peu gros sur le cœur, quoi. Hein, les auditeurs comme nous-mêmes. Et c'est à ce sujet d'ailleurs, Serge, que j'aimerais avoir votre opinion éclairée.
Il faut pas en avoir gros sur le cœur, parce que vous savez, quand on ouvre les fenêtres, ça fait des courants d'air. Et les courants d'air emportent les mauvaises odeurs et les vilaines poussières. Et c'est fait, d'ailleurs, hier.
Alors, Serge, vous vouliez peut-être nous dire un petit mot sur un certain nombre d'événements qui ont agité notre chère radio, comme disait Jean Ferré.
Ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a un formidable malentendu dès le départ. Mais vraiment un formidable malentendu qui repose d'abord sur une confusion qui a été commise involontairement, bien sûr, par de nombreux auditeurs. Et ensuite, sur une, comment dire, sans être désagréable, une arnaque.
Oh ben ça l'est quand même.
Oui, c'est désagréable, l'arnaque.
Ah oui.
Tant pis, je le laisse. Alors voilà ce qui se passe.
Une coquetterie.
Oui, d'accord, si vous voulez, une coquetterie. Voilà ce qui se passe. Depuis la disparition de Jean Ferré, dès après la disparition de Jean Ferré, est né un mouvement de contestation de la légitimité d'Henri de Lesquin. Les arguments divers étaient que Henri de Lesquin était nouveau dans la bande, qu'on ne comprenait pas pourquoi c'était lui qui était le patron, etc., etc. Et qu'il n'était pas aimable, figurez-vous. Il ne parlait pas avec assez de componction et assez de précaution. Et c'est vrai qu'Henri de Lesquin est quelqu'un, comme dit mon ami Brignot, qui est un peu raide à la toile. Bon, ça, évidemment, il faut dire qu'il est polytechnicien, il est énarque.
Ça aide pas.
Sauf erreur de ma part, on n'a pas encore fait de cours de showbiz à Polytechnique et à l'ENA. Et donc, pour ce qui est des relations publiques, c'est assez moyen, quoi. Bon. Alors, les gens, certains, très peu d'ailleurs, ont pris prétexte de ça, de ce côté un peu rugueux, pour dire, mais comment, on me manque de respect, on ne me considère pas avec les égards dus à mon rang, qu'est-ce que c'est que ça? Et certains ont dit, ben alors, ça va être très simple, puisque Henri de Lesquin ne nous plaît pas, nous allons nous débarrasser d'Henri de Lesquin. Alors, je voudrais pas faire de comparaison désagréable, mais c'est un peu comme si un catheureux disait, ce rhume ne me plaît pas, je vais m'en débarrasser. Une fois que vous avez un rhume, il faut aller au bout.
Oui.
Parce que, comme disent les médecins, à propos de la grippe, avec les médicaments, c'est une semaine, sans médicaments, c'est 8 jours. Donc, formidable perte de temps et d'énergie.
Oui.
Le fait est que cette perte de temps et d'énergie reposait donc sur un faux semblant. Car le malaise n'est pas né de l'avènement, si j'ose dire, d'Henri de Lesquin. Le malaise, il durait depuis longtemps. Depuis longtemps, certains avaient dans la tête d'accompagner Jean Ferré jusqu'à Pont-aux-Dames, avec tous les égards dus à son rang, mais en lui faisant comprendre que décidément il était trop vieux pour diriger cette radio. J'ai déjeuné au mois de mars, sauf erreur de ma part, avec Jean Ferré, dans un restaurant de Saint-Germain-en-Laye, en présence de deux témoins qui se souviendront parfaitement de ce déjeuner car il était mémorable. Jean était déjà atteint assez gravement et on voyait qu'il était mal. Et on voyait surtout qu'il était totalement bouleversé. Ces deux témoins, je l'indique, sont le secrétaire général de l'association Philippe Barlet, et membre du conseil d'administration, Didier Roy. Devant Didier, Philippe et moi, Jean Ferré a expliqué les raisons de son effondrement moral, de sa peine. Il nous a dit, j'ai reçu un coup de téléphone d'un directeur d'émission qui m'a dit, il n'est plus supportable que Debeketch reste à l'antenne de Radio Courtoisie. Vous devez le virer. J'exige que vous le viriez. Je vous somme de le virer. Et si vous ne le faites pas, ce sera la démonstration que vous êtes gâteux ou lâche. Je répète là les propos de Jean Ferré, mot à mot, les propos que Jean Ferré a rapportés, mot à mot, et qui ont été tenus par ce directeur d'émission.
Aurait dû me demander le directeur d'émission, parce que moi, ça fait 14 ans que j'essaie de vous virer, j'y arrive pas.
Voilà, bah oui, c'est ça, mais il se croyait plus malin que vous, faut croire. En l'occurrence, vous savez, ça fait penser à ces mecs qui posent des pièges à rats dans les... ou des pièges à souris dans les placards et qui se passent les doigts, voilà. Bon, alors, ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je veux dire, c'est qu'un autre directeur d'émission, il y a au moins 3 ans, est venu me voir à mon bureau pour m'inviter à déjeuner, et vous savez que je ne refuse jamais un repas-chaud gratuit. Et il m'a dit la chose suivante. Mon cher Serge, tu vois bien que Jean n'est plus capable de diriger cette radio. En tout cas, moi, je ne supporte plus son impérium. Et par conséquent, je te propose de nous associer pour le foutre dehors. Je lui ai dit, mon cher X, tu vois la porte, elle est derrière toi, tu la prends, après avoir payé l'addition quand même. Et non seulement je ne m'associerai pas avec toi, mais si tu fais quoi que ce soit, tu auras de mes nouvelles et tu m'en racontes toi et tu verras ce que ça peut coûter. Parce que il avait parié sur mon accord, ma complicité, parce que j'étais à l'époque fâché comme à peu près 6 fois par an avec Jean Ferré. Voilà. Donc ça c'est la preuve que depuis 3 ans, l'un des directeurs, et depuis au moins le mois de novembre 2005, l'autre directeur, avait résolu, ensemble d'ailleurs, d'obtenir le départ de Jean Ferré. Ce qui signifie que prétendre aujourd'hui que c'est l'inadéquation de d'Henri de Lesquin qui explique leur mobilisation et leur brigue est un mensonge. C'est la première chose. Ça c'est comment avez-vous dit
la coquetterie.
Voilà. Maintenant, il y a autre chose. Et c'est une confusion, je l'ai dit. Or, cette confusion, je ne peux malheureusement pas l'expliquer au micro de Radio Courtoisie, parce que vous savez que elle m'obligerait à parler d'un texte qui a été lu lundi soir et auquel il nous a été interdit de faire au micro le moindre commentaire supplétif.
Donc, n'en parlons pas.
Je n'en parlerai donc pas. Je dirais simplement que, et je suis désolé si on croit que c'est de la pub, je peux même dire que si des auditeurs veulent recevoir le texte complet de cet article sans acheter le journal, il suffit qu'ils m'envoient une enveloppe timbrée, je leur enverrai une photocopie. Donc si on veut savoir exactement ce qui s'est passé, on peut m'écrire 4 places France Litz, ou on peut acheter le libre journal 4 places France Litz, moyennant un carnet de timbre. Je raconte toute cette histoire et je raconte ce qui s'est passé très exactement et comment cette confusion a pu faire croire à certains que la grogne, la brigue, était liée à une manifestation de solidarité à mon endroit parce qu'on craignait que je fus interdit d'antenne. Tout ça est non seulement faux, mais c'est exactement le contraire de la vérité. Les gens qui mènent cette brigue veulent bien entendu se débarrasser de d'Henri de Lesquin, et ça, entre nous, je leur souhaite bien du plaisir, parce qu'il y a une race d'animaux qui s'appelle, de crustacés qui s'appelle les arapèdes. Et je peux vous dire par expérience que si on essaye d'enlever une arapède du rocher, on risque d'y laisser ses ongles.
Notamment, on appelle ça les berniques chez nous.
Ah oui, les berniques, si vous voulez. Eh bien, on dit bernique, d'ailleurs.
Ah, bernique, hein, bernique, si vous bernique.
Vous
débarrasser ça veut dire bernique.
De l'esquin, bernique. Mais ça, c'est un des objectifs. L'autre objectif, c'était de se débarrasser de moi. Mmh. Voilà. D'accord. Et c'est raté.
Et, de, et peut-être de moi aussi, d'ailleurs.
Tiens, ah bah, par le fait, parce que le suppléant,
je suis la, le suppléant... Je suis la prothèse, hein, donc la prothèse, elle part avec. Ah hein,
voilà,
donc,
c'est ça, normal, tout ça. La prothèse part avec le cadavre du prothésé et le suppléant avec le suppléant. Voilà, ouais, un petit résumé. Vrai. Moi, ma position, elle est extrêmement simple. Je la redis, je l'ai dit brièvement lors de mon intervention liminaire dimanche. Jean Ferret a désigné Henri de Lesquin. Nous avons toujours considéré que cette radio fonctionnait selon un mode monarchique. C'est-à-dire que les décisions de Jean Ferret n'étaient pas sujettes à discussion. Il prenait une décision après avoir écouté. Je ne dis pas consulté, je dis écouté. Et quand il avait pris sa décision, c'était vraiment du temps perdu que d'essayer de le faire changer d'avis. Donc, il a désigné Henri de Lesquin. Il n'a pas désigné, comment s'appelle-t-il, DiCaprio ou Alain Delon. Il n'a pas désigné Bigard. Bah, évidemment, ça serait beaucoup plus drôle. Ou ça serait plus joli. Ou il aurait pu désigner Miss France, par exemple. Ça serait formidable. On aurait une très jolie femme pour représenter la radio. Mais non. Il a désigné Henri de Lesquin, qui n'est ni Leonardo DiCaprio, ni Alain Delon, ni Miss France, sauf erreur de ma part. Eh ben, il faut en prendre son parti. C'est comme ça et c'est pas autrement. Et si ça plaît pas, c'est exactement le même prix. Autrement, c'est pas Henri de Lesquin qu'on trahit, c'est Jean Ferret. Et pour ma part, si je me suis d'innombrables fois enguirlandé avec lui, enfin, ça durait jamais très longtemps parce que la prudence commandait de pas insister. J'ai toujours refusé de m'affronter avec lui et de me montrer déloyal. Et je ne veux pas commencer aujourd'hui. Donc, toute cette affaire, c'est une affaire d'ambition personnelle. Ce sont des gens qui poursuivent la même ambition depuis des années, qui ont cru qu'ils pouvaient profiter du décès de Jean Ferret et de son remplacement par quelqu'un qui n'avait pas forcément le profil qu'on pouvait attendre, enfin que les amateurs de showbiz pouvaient attendre, pour prendre le pouvoir. Eh bien, c'est raté. Moi, je m'opposerai catégoriquement à ce que ça réussisse, quelles que soient les dispositions prises. Henri de Lesquin a désigné Jean-Gilles Malliarakis comme directeur du programme. Je m'en réjouis. Directeur d'antenne. Je m'en réjouis. J'espère que ça se réalisera rapidement parce que j'ai beaucoup d'amitié et de considération pour Jean-Gilles, qui est un vrai travailleur, plein d'idées. Et voilà, et on en reste là. Et ceux qui sont pas contents, comme je l'avais dit à celui qui m'avait offert un repas chaud gratuit, la porte est grande ouverte. Et là, cette fois-ci, on leur demandera même pas de payer l'addition. Voilà. Je dois dire que, pour être parfaitement clair, j'ai été tellement scandalisé par les propos qui ont été tenus hier à ce micro, enfin à votre micro, que j'ai adressé une lettre.
Pas au mien, au micro de Radio Courtoisie. Ah ouais,
au micro que vous utilisez ce soir.
Voilà. Qui est le même que le vôtre, d'ailleurs.
J'ai adressé une lettre au président de la...
De l'association.
Conseil d'administration. Dans lequel je dis que ces propos ont bafoué... je dis exactement ça, je voudrais le lire, puis après je me tairai, je vous rassure. Des propos faux, insultants, diffamatoires à l'égard de certains directeurs d'émission, dangereux pour l'avenir de la radio et plus que tout en opposition radicale avec l'esprit même d'une équipe qui, conformément aux directives de Jean Ferret, s'est toujours interdit, au nom de la liberté d'expression, de porter des critiques publiques contre les autres directeurs d'émission, les bénévoles et les techniciens. Ces propos ont bafoué cette règle impérieuse d'une façon scandaleuse et grossière. Leur auteur n'a pas hésité à émettre sur un ton lourdement allusif des accusations contre la gestion de la radio, qui pourrait avoir des suites dommageables au moment où, justement, il est demandé aux auditeurs de faire un effort pour les cotisations. Certains auditeurs ont cru comprendre que ce discours était une manifestation de solidarité à mon endroit, après que j'ai été blâmé pour le contenu d'une émission datée du 9 novembre 2005, je dis bien 2005, il n'en est rien. Ça n'a rien à voir avec la solidarité, c'est un règlement de compte, ou plus exactement une tentative de putsch menée par des gens qui sont au service de leurs seuls intérêts, et par conséquent, j'ai terminé la lettre au directeur, au président du comité, du conseil d'administration en disant « Je vous demande donc de proposer au conseil d'administration de mettre un terme définitif à la collaboration de Claude Reichmann à Radio Courtoisie. » Et c'est ce qui a été décidé à l'unanimité par le conseil d'administration il y a 2 heures. Il faut quand même que les gens comprennent que quand on est invité dans le salon, on ne pose pas sa petite crotte au milieu du tapis persan. Voilà. Eh bien, je vous l'ai dit,
je crois que vous êtes,
chers amis auditeurs.
Voilà, vous avez terminé sur une belle image, ouais, vraiment, exact, hein. Qui va enchanter la France entière. Merci beaucoup.
Il y a beaucoup d'amis qui sont en train de dîner, mais il y a une seule façon de parler des choses, c'est de les appeler par leur nom.
C'est vrai.
Donc, je rappelle que si vous voulez recevoir le journal, vous pouvez écrire 4 places France Rite en envoyant un carnet de timbre.
On va donner qui vont dire que c'est de quand même parce que nous sommes écoutés dans le monde entier, voilà. Que c'est 4 places France Liste, 75-010 Paris. Parce que, voilà.
En revanche, si vous ne voulez pas recevoir le journal, ce qui est votre droit le plus strict, mais que vous, je voulais savoir ce que j'ai écrit dans le journal, ce qui est aussi votre droit, je vous propose de m'envoyer une enveloppe timbrée et je prendrai à ma charge le coût accablant de la photocopie. Voilà. Mais en échange, vous aurez la difficulté accablante de lire mon texte.
Serge Beckett.
Voilà, mon cher Daniel.
Merci
je
beaucoup.
Je salue tous vos invités.
Eh bien, ils sont nombreux. Ils vous écoutaient avec beaucoup d'attention, ainsi que nos auditeurs. Cette mise au point venait en temps opportun. Et je crois que maintenant, il est temps de siffler la fin de la récréation et de se remettre au travail. Voilà, se remettre au travail parce que la radio a besoin vraiment de tous ses efforts, des efforts des auditeurs, de ses patrons d'émission, de ses bénévoles, de ses techniciens, si nous voulons qu'elle continue à apporter ce service extraordinaire et unique qu'elle apporte en France.
Et plus que jamais, que Dieu nous garde.
Et que Dieu nous garde. Merci Serge de ces précisions. C'était donc Serge Beckech, le directeur du Libre Journal de la France Courtoise. Papy également, le directeur du Libre Journal de Serge Beckech, que ce soir... Je protèse. Voilà. Chère Victoria, vous n'avez pas encore eu le temps de lire ce paquet de messages. Avant de passer à notre première invitée, juste une petite annonce que je voudrais faire, parce que c'est une très très jolie initiative d'Anne Brassier et de Didier Rochard. C'est dans le cadre des récitals La parole est à la musique. Il y a un très beau récital, c'est la soirée inaugurale qui va avoir lieu dans quelques jours, le 17 novembre, de Ronsard à Éluard, récital de poésie par le comédien Philippe Lejour. Il y a également un flûtiste qui est prévu pour animer cette soirée autour entre ces deux poètes que sont Ronsard et Éluard, évidemment. C'était pas tout à fait exactement la même catégorie, mais enfin c'était quand même des gens de talent. Ça se passe donc vendredi 17 novembre à partir de 20h et à la Fondation Dutch de la Meurthe, qui se trouve à la Cité Internationale Universitaire de Paris. Très facile à trouver, c'est au 37 boulevard Jourdan. Si vous souhaitez des informations complémentaires sur ce récital La parole est à la musique, organisé par Anne Brassier et Didier Rochard, vous pouvez téléphoner au Forum de la France Chrétienne au 0875 282 915. Eh bien, nous allons reprendre le cours, non pas le cours normal de notre émission, puisque ce qu'on a fait, je trouve tout à fait normal, mais nous allons passer au premier invité de cette première partie, qui est le professeur Xavier Martin, qui vient nous voir pour un ouvrage qui s'appelle, intitulé très benoîtement, Voltaire méconnu, sous-titré, c'est là où on voit déjà que ça va être très très intéressant, Aspect caché de l'humanisme des Lumières, et qui est publié chez Dominique Martin-Morin, qui est votre éditeur ordinaire depuis... Depuis une douzaine d'années, puisque la première fois que je vous ai reçu ici, c'était pour le tout premier livre que vous aviez reçu.
1994.
Voilà.
Oui.
Mon Dieu, déjà.
Oui.
C'était extraordinaire. Alors, je me disais, j'ai lu votre livre avec attention, non seulement je l'ai lu, mais j'ai dû, ce qu'on ne doit pas faire en principe, je l'ai un peu crayonné, je dois dire. J'ai quel malheur que je n'ai pas eu un professeur comme Xavier Martin quand j'étais moi-même étudiant en lettres modernes. Et moi, c'est une sottise, puisque nous avons avec Xavier Martin à peu près le même âge, donc j'aurais jamais pu l'avoir comme professeur. Et alors je me dis, mais quel bonheur pour les étudiants d'aujourd'hui, pour tous ceux qui étudient la littérature, qui s'intéressent à la littérature, que de pouvoir profiter du travail considérable que Xavier Martin fait sur Voltaire. C'est-à-dire que Xavier Martin édifie année après année, avec une espèce de patience, une patience, mais qui est au-delà, parce que moi je suis un impatient, avec patience, édifie son œuvre, et je dirais même qu'il déconstruit avec patience l'œuvre que le mensonge a édifiée sur ses périodes et ses doctrines qui sont nées au XVIIIe siècle. Voltaire méconnu. Alors on pouvait penser, oui, ah bah tiens, il va nous parler de Voltaire et la traite des nègres. Oui, il y fait allusion dans son ouvrage, oui, une allusion. Voltaire avec sa fabrique de montres dont il voulait quasiment envahir toute la Russie. Bon, mais on parle pas directement, c'est pas une chose très intéressante, les montres. Non, non, c'est une chose beaucoup plus intéressante. C'est qu'au travers de cette espèce de monument qu'une certaine histoire a fait de Voltaire, comme le champion incontournable, indépassable de la tolérance, on s'aperçoit, en grattant un peu ce vernis que l'historiographie, que l'historiquement correct, comme dirait Sevilla, ou le politiquement correct, a mis sur le visage de Voltaire, on s'aperçoit qu'au fond, cet homme était l'intolérance incarnée, que cet humanisme des Lumières, qui est soi-disant le modèle indépassable de la pensée humaine, était d'abord et avant tout un mépris et une haine pour l'homme, pour l'être humain, pour le genre humain. Et ces choses-là sont dites avec un talent extraordinaire et une recherche stupéfiante dans l'ouvrage de Xavier Martin. Alors Xavier Martin, c'est un travail colossal parce que vous avez quasiment tout lu sur Voltaire.
Ben
de Voltaire.
Oui, j'ai lu beaucoup de choses. C'est un travail colossal, oui, que je mène depuis une petite quinzaine d'années. Pas seulement sur Voltaire, sur les philosophes des Lumières, sur tous les propos qui ont été tenus sous la Révolution française. Et vous savez qu'on a beaucoup parlé sous la Révolution française. Et puis j'ai réussi à m'enfoncer un peu dans le 19e siècle pour suivre certains fils. Oui, c'est un travail vraiment très considérable, dont le mérite est relatif limité parce que ça, c'était un aspect essentiel, mais un aspect de ma profession d'universitaire. Je suis historien du droit, historien des idées politiques. En tant qu'historien du droit, j'ai été amené à m'occuper du code civil comme objet d'histoire. J'ai vu un certain nombre d'anomalies, un certain décalage entre notamment la conception de l'homme très élevée dont on créditait dans nos facultés de droit les auteurs du code civil et leurs propos qui étaient vraiment, vraiment diamétralement contraires. Et de fil en aiguille, bien, je suis remonté. Ces gens-là venaient de vivre la Révolution française. Ils avaient été formés sous les Lumières. Et de fil en aiguille, j'ai été amené à accumuler d'immenses dossiers sur tout ce qui peut éclairer ce que les gens des Lumières, de la Révolution, du début du 19e siècle avaient dans la tête, et qui ne corrobore pas du tout, la documentation ne corrobore pas du tout l'image académique qui en est donnée. Et l'image académique qui en est donnée n'est pas seulement académique au sens de l'enseignement, mais c'est aussi l'image médiatique. Il y a une espèce effectivement de mythologie politique sur toutes ces choses-là. Et c'est vrai que Voltaire n'est pas la moindre composante de cette mythologie.
Il l'est éminemment, parce que ça a été quand même le personnage le plus éminent de cette équipe.
Et il demeure dans la conscience collective, dans la présentation, dans le discours, disons, politico-médiatique et universitaire. Il demeure vraiment, c'est vrai, un personnage indépassable en matière de tolérance, etc. Alors, dire que c'était un monstre d'intolérance, moi je ne l'ai pas vraiment dit. Je me suis contenté de montrer que les gens qui l'approchaient, et même ses très proches, l'ont dit, ils l'ont répété. Ils ont parfois été extrêmement gênés, même pour lui. Et il est vrai qu'il y a une masse de choses dans ses propos, dans ses comportements vis-à-vis d'un certain nombre de gens qui tendraient à corroborer ce jugement.
Alors je rappelle que nous sommes sur Radio Courtoisie, la radio libre du PRL et de la francophonie. C'est le libre journal de Serge Beccagiri, ce soir par Daniel Amiche, assisté de la chère Victoria, et que nous avons le bonheur d'écouter le professeur Xavier Martin pour le dernier ouvrage qui vient de paraître chez Dominique Martin-Morin, Voltaire, méconnu, aspect caché de l'humanisme des Lumières. Alors Voltaire, pour, je dirais, pour la moyenne de nos compatriotes, c'est donc un personnage très positif, c'est celui de la lutte pour la tolérance, c'est celui de l'affaire Calas, c'est celui de la résistance au despotisme, et c'est celui des Lumières transportées sur la terre entière. Mais dans la réalité, c'est pas tout à fait ce personnage.
C'est pas tout à fait cela. Vous avez cité l'affaire Calas. On ne peut pas dire qu'il n'ait rien fait dans l'affaire Calas. On ne peut pas dire que les conditions dans lesquelles Jean Calas de Toulouse a été condamné et supplicié soient absolument hors de critique, bien sûr. L'image qu'on a de Voltaire se dressant contre l'injustice est très, enfin, demande beaucoup d'atténuation, de précision. Quelques mois avant l'affaire Calas, il refuse de s'occuper d'un pasteur protestant qui risque la peine de mort et qui va dire va subir la peine de mort. Et il refuse, le pasteur Rochette, il refuse de s'en occuper avec une grande désinvolture. Il dit « Rosalie m'intéresse davantage si elle est bonne actrice. Rosalie, c'est une jeune débutante au théâtre. » Et il dit qu'il est indifférent au royaume des Francs, que le pasteur Rochette soit libéré ou condamné, ça n'a pas d'importance. Il suggère quand même à son grand ami, le duc de Richelieu, qui gouverne le pays dont dépend cette affaire Rochette, il lui suggère de le laisser condamner à mort pour pouvoir intervenir, obtenir sa grâce et obtenir la faveur de ses faquins de Huguenots, en ajoutant « il est toujours bon d'avoir un parti pour soi ». Et quelques mois après, alors qu'il est voisin de Genève, il se lance lui aussi dans l'affaire Calas, après l'avoir prise pas du tout au sérieux, après avoir pensé que c'était une affaire de protestants, qu'il n'aime pas les protestants, contrairement à ce qu'on croirait. Et il se lance dans l'affaire Calas, et dans l'affaire Calas, eh bien, d'une part, il méprise les Calas, il méprise la famille Calas, et d'autre part, il ment par omission. Les Calas, il les appelle des imbéciles. Il répète plusieurs fois que les Calas sont des imbéciles, notamment les Calas se sont parjurés. Ils ont eu le défaut, si ce que disent les Calas est juste, leur fils qui s'était suicidé, et c'est pour l'assassinat de ce fils que Jean Calas a été condamné, leur fils qui se serait suicidé par pendaison, pour éviter le déshonneur d'une pendaison sur la famille, ils auraient maquillé le décès. Ils ont juré. Et Voltaire, alors, et puis finalement, ils ont été obligés de reconnaître qu'ils s'étaient parjurés. Alors Voltaire leur en veut beaucoup, non pas d'avoir fait un faux serment, mais de s'être fait pincer sur ce faux serment. Et c'est une des raisons pour lesquelles il considère qu'ils sont des imbéciles. Et à ses amis, il dit il ne faut pas parler de ce serment. Et dans sa relation des faits qui ouvre son traité de la tolérance, qui est écrit à cette occasion-là, il passe sous silence cet aspect capital qui était de nature à orienter les juges, évidemment. Les juges, ils ne cessent de les qualifier d'assassins, assassins en robe noire. Enfin, il est extrêmement, ce sont les juges du Parlement de Toulouse, il est extrêmement sévère et méchant à leur égard. Et en réalité, quand l'affaire commence à se tasser un petit peu, il dit qu'il y avait de quoi excuser. Il dit, j'ai toujours été convaincu qu'il y avait de quoi excuser les juges. Il dit, certes, les juges ont rendu un jugement qui était mauvais, mais ils l'ont rendu sur un dossier qui explique très bien qu'il se soit prononcé comme ça. Donc vous voyez ce double...
Hypocrisie.
Et puis alors par ailleurs, je voudrais pas insister trop sur l'affaire Calas, mais on s'attend dans l'affaire Calas à voir Voltaire dressé contre les institutions, donc le pouvoir monarchique et l'Église, et en fait c'est pas le cas. Il est dressé contre la populace toulousaine qui a mené une campagne d'opinion contre Jean Calas, et la populace catholique toulousaine, contre la populace et contre les parlements, contre le Parlement de Toulouse, et le Parlement, Voltaire n'aime pas les parlements, parce qu'ils sont une atteinte au caractère absolu de la monarchie. De même que ce qu'il reproche à l'Église institutionnellement, fondamentalement, c'est d'être un contre-pouvoir. Là aussi, l'image de Voltaire, qui serait, disons, un ancêtre de l'esprit républicain et des valeurs républicaines, est à revoir beaucoup, même totalement, puisque c'est ce qu'il lui faut, lui, c'est la monarque absolue. La monarchie française n'est pas assez absolue. Celle de Frédéric II, celle de Catherine II le sont, et il les admire beaucoup.
Mais l'admiration qu'aura effectivement Frédéric II pour des tas de raisons, parce que lui, il croit ni à Dieu ni à diable, hein, Frédéric II, quant à l'impératrice de Russie, j'en sais rien du tout, mais cette lune de miel va durer quand même extrêmement peu longtemps, et d'ailleurs va se terminer, pour ce qui est de l'affaire prussienne, de façon extrêmement désagréable pour Voltaire.
Oui.
Mais vous avez utilisé à deux reprises deux mots qui vont quand même nous aiguiller dans notre réflexion. Méchanceté et populace. Oui. Alors, sur la populace, c'est très intéressant parce que nous avons l'impression que l'amour du peuple et l'amour du peuple universel est né avec les Lumières. Qu'avant, vous aviez le roi, les mauvais seigneurs, et puis le peuple qui était juste bon à battre les étangs pour faire chasser les grenouilles pour que le seigneur, après avoir satisfait au droit de cuissage, étant extrêmement fatigué, puisse enfin dormir du sommeil du juste. Bien. Alors, l'impression que, ça y est, le respect du peuple, l'amour du peuple, la philanthropie va arriver avec les Lumières. Or, il n'en est rien. Les philosophes des Lumières et Voltaire le premier abhorrent le peuple. Et si ils n'aiment pas le peuple, ils s'aiment eux, la petite coterie de gens qu'ils forment, ils aiment quelques grands seigneurs qui leur servent la soupe, au propre comme y figuré, mais ils ont un mépris pour l'humanité qu'ils considèrent comme étant des animaux. Thème qu'on retrouvera sous la Révolution française et qui servira en partie à justifier le génocide vendéen. Les Vendéens n'étant pas des êtres humains, mais étant quelque chose entre le Baudet du Bas-Poitou et l'être humain tel que les Lumières l'ont défini. Et puis, là,
j'ouvre une parenthèse. Il y a une phrase de Voltaire qui résume votre propos. Le peuple est entre l'homme et la bête.
Vous vous rendez compte?
Oui, je me rends compte.
Je disais ça, je me parlais à moi-même, mais je parlais à nos auditeurs. Enfin, à notre majorité invisible qui nous écoute avec ferveur. Oui. C'est quand même vraiment monstrueux. Enfin, ce sont des gens qui sont à la limite de la maladie mentale. Pour moi, ce sont des malades mentaux parce que tout ce que le christianisme a apporté sur l'anthropologie chrétienne, évidemment dans des circonstances particulières, dans une histoire évolutive d'une nation, d'une société, d'un royaume, et ça, tout ça est balayé, tout ça n'existait plus. N'existe que ceux qui pensent comme moi, et encore une fois, quelques grands seigneurs qui nous donnent des sacs d'écus de temps en temps. C'est absolument monstrueux. Et puis, le mensonge. Le mensonge, chez Voltaire, c'est une arme.
Puis c'est un principe.
C'est un principe.
Oui, c'est un principe.
Mentir toujours, il en restera bien quelque chose. Je ne cite pas cette citation, mais elle est de lui. Vous en citez des plus épouvantables encore. Oui.
Et puis il est en action, et il a mis en pratique son principe, et il est sans arrêt il vit dans le mensonge en permanence, effectivement.
Et si je puis intervenir, notamment dans l'ensemble de ses œuvres, puisque l'ensemble de ses œuvres sont éditées, subversives sont éditées, soi-disant prétendument en Hollande, et il est toujours prêt à démentir qu'il en est l'auteur.
Toujours, sans arrêt.
Systématiquement, il dit non, je n'en suis pas l'auteur, il est prêt à jurer qu'il n'en est pas l'auteur, alors qu'il est évidemment...
Et non pas pour des questions de bastoliste, mais même parfois que c'est proches amis comme d'Alembert ou Diderot, il lui arrive à dire que non, c'est pas moi qui l'écris.
Oui, il brouille les pistes sans arrêt, et c'est d'autant moins souvent pour des questions de police qu'il est ami avec le ministre de la police et qu'il peut...
C'est un auxiliaire de la police.
Je le dis à un moment donné, et c'est vrai qu'il a des comportements à certains moments où il est auxiliaire de police. Il travaille à faire enfermer des gens. Et
à la Bastille,
ça a été une des choses qui m'ont le plus étonné dans ce dossier, c'est qu'il a fait enfermer, il a cherché à faire enfermer par lettre de cachet de jeunes auteurs qui lui déplaisaient, qui n'étaient pas suffisamment admiratifs des vieilles gloires, et il a réussi, notamment avec l'un d'entre eux, qui est un jeune auteur protestant, La Baumelle, un jeune auteur de talent, qui a écrit des choses un peu libres, qui déplaisaient à Voltaire. Il a réussi à le faire enfermer deux fois à la Bastille.
C'est comme fou.
Et quand on était à la Bastille, La Baumelle y restait 6 mois et 1 an, et quand on y était, on ne savait pas à combien de temps on y resterait.
Par lettre de cachet.
Et une fois qu'il est sorti de la Bastille, La Baumelle, il a eu toutes les peines du monde à retrouver ses papiers, ses livres, qui étaient restés là-bas. Il a été assigné à résidence dans son village du Languedoc, Et 15 ans après, Voltaire a cherché à nouveau, pour se venger, alors que la Baumelle ne bougeait plus, il a cherché à nouveau à le faire enfermer. Et il disait que le cachot jusqu'à la fin de ses jours serait ce qui conviendrait.
Alors c'est cette haine pour les vivants qu'il jalouse ou dont il estime qu'il ne le flatte pas assez, cette haine va même pour les morts. Il continue à haïr les morts.
Oui, alors ça a beaucoup frappé les contemples, ses amis, au moins amis avec des guillemets.
Frédéric II,
d'Alembert, sont choqués de l'acharnement de Voltaire contre les morts. Et c'est vrai qu'il continue de poursuivre les morts de sa vindicte. Et Frédéric II, d'Alembert, lui fait des remarques, alors qu'ils sont très liés, ils sont même complices. D'Alembert lui fait des remarques très vives à ce sujet, et Frédéric II ne se contente pas de remarques très vives, il l'accuse d'être un vil corbeau, il lui parle de la noirceur de son âme. Les propos de Frédéric II sur ce point-là sont extrêmement sévères.
Je dois dire que tout le chapitre qui traite des rapports, c'est sur plusieurs chapitres, mais il y a un chapitre principal qui traite des rapports entre Frédéric II et Voltaire, oui. C'est quelque chose de tout à fait extraordinaire.
C'est étonnant parce que il y a un discours officiel, entre ces deux génies du temps des Lumières, les choses n'ont pas toujours été harmonieuses parce que c'était deux grands tempéraments, mais enfin on estompe beaucoup de choses parce qu'il faut sauver l'idée de ce couple qui domine et la politique et la philosophie à eux deux. Et en réalité, ils se sont haïs sans cesse, hein. Même dans les moments où il y avait un semblant d'affectivité qui paraissait prendre le dessus. Et Voltaire n'a jamais pardonné certaines choses que Frédéric II lui a faites et qui étaient elles-mêmes des représailles contre des comportements insupportables de Voltaire quand il était à Berlin. C'est effrayant ce monstre,
ce type se comporte comme un... Oui. Comme un... palefrenier, c'est invraisemblable.
Par ailleurs, il y a une vulgarité dans leurs propos sur certains thèmes et des allusions à certaines choses.
Oui, à certaines tendances de Frédéric II.
Oui, il y a des choses qui sont peut-être passées à Berlin qui sont assez étonnantes.
Oui. Laissons le mystère planer sur ces choses-là, mais il y a des choses qui sont vraiment pas claires. Mmh. Alors, c'est détestation de tout. Détestation... En premier lieu, mais je dirais que tout ça n'est une espèce de quarté ou de quinté gagnant, détestation de l'Église, qui n'est pas l'Église, mais l'infâme, c'est le nom de code qu'ils ont entre eux.
L'infâme superstition, c'est le mot qui est sous-entendu, oui. Alors, ça n'a pas été une découverte, évidemment, que Voltaire fut anticlérical, antichrétien, anti-ecclésiastique, mais la violence de cette haine, et la violence et la durée de cette haine sont quand même étonnantes, la violence avec laquelle ça s'exprime, et puis la dimension métaphysique de cela. Vraiment, il a un compte à régler avec Dieu, et notamment avec la conception chrétienne de Dieu. Il est en lui-même la nature humaine, et il est le concept d'homme créé à l'image de Dieu. Il est aussi le verbe haïr, il est aussi l'idée de la grâce divine, l'idée de la liberté, toute l'économie entre la grâce et la liberté. Il déteste ça. Il déteste ça, d'où le dieu horloger, l'homme machine. D'accord.
Conception cérébrale.
Et je n'arrive pas à comprendre le degré, parce qu'après tout, qu'il prenne ses distances avec tout ça, je le comprendrais très bien. Mais qu'il poursuive ça de son ressentiment m'étonne.
Alors vous faites deux petites allusions, mais ce sont des allusions, parce que vous êtes professeur de droit, professeur des idées politiques, de quelqu'un de sérieux, vous n'êtes pas un mystico dingo, mais tout à l'heure je vous le disais hors antenne, moi j'y vois quand même une espèce de forme de possession diabolique. Il y a effectivement parce que je veux dire que votre travail est essentiellement, vous avez lu toute l'œuvre évidemment, mais le travail est essentiellement sur les... correspondance de Voltaire, qui est colossale, considérable. Aussi bien la correspondance reçue que la correspondance envoyé.
Il y a 50 volumes.
Non, il y a 50 volumes, c'est considérable.
50 volumes, oui.
Et là, on
50
apprend...
50 gros volumes.
Voilà, là, nous ne sommes pas dans l'homme de lettres qui peaufine ses mots, qui change ses mots. Nous sommes plutôt dans le jet assez rapide, quand on a le talent de plume, car Voltaire avait un colossal talent de plume, personne n'en doute. Et nous ne sommes pas ici pour dire du mal du talent. C'est un homme de talent, et c'est d'autant plus grave que ce talent, il est si mal ordonné. Mais c'est ça qui m'a beaucoup frappé, c'est ce sentiment que j'ai qu'il y a quelque chose d'assez diabolique, d'espèce, parce que jusqu'au bout, il a été dans cet état d'esprit.
Alors, bon, vous faites allusion au fait que je ne puisse pas, évidemment, j'ai pas les compétences pour en décider, je m'en défends dans mon livre, et une fois que je m'en suis défendu, j'apporte tout de même tous les éléments qui pourraient permettre d'aller dans ce sens-là, parce qu'il me paraît extrêmement important. Oui. Il y a une obsession de la métaphore diabolique par moment, et avec certaines personnes, oui, et on retrouve l'entourage de Frédéric II à ce moment-là, qui laisse sans voix, on hésite même, enfin je me suis un peu forcé à citer tout ça, je me suis dit, il faut que ça soit connu,
oui,
il faut
que ça soit connu. Parfaitement connu.
Mais enfin, je n'avais pas un sentiment, de bien-être particulier en traitant ces pages-là. Et d'ailleurs, mon éditeur non plus.
Il faut tenir ça avec avec distance. Monsieur l'abbé,
je voulais faire deux petits commentaires. C'est que, d'après ce que je sais, mais monsieur Martin pourra préciser certainement, moi j'ai toujours entendu dire que l'infâme, c'est fondamentalement Jésus-Christ.
L'infâme, c'est l'infâme superstition.
Voilà.
Mais il a des manières de traiter Jésus-Christ qui sont encore plus violentes que ce.
D'abord, le drame de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est qu'il est juif et il a une détestation pathologique des juifs. C'est effrayant. Et des nègres, et de tout, du monde entier. Oui. Je veux dire, tout le monde tout le monde est rempli de...
Alors, ce que vous dites sur l'infâme, je le croyais aussi, mais non, suivre l'apparition de ce mot, son évolution dans le vocabulaire des, notamment, principalement de la correspondance de Voltaire, et en plus l'apparition de l'abréviation lymphe c'est l'infâme superstition.
D'accord. Donc,
christianisme
dans son ensemble.
Oui, il a des propos sur le Christ qui sont d'une violence et d'une. Bon, j'en ai même cité un. J'ai hésité, mais je me suis dit
il est au-delà du. Il faut l'aspect du sacré. C'est monstrueux, mais il faut le vouloir.
Et puis l'autre chose, je pense que là aussi vous nous confirmerez, vous infirmerez, c'est que donc Voltaire a eu une carrière au XVIIIe siècle. Et puis sa grande carrière, en tout cas d'édition, c'est la Restauration.
Oui,
on édite par centaines de milliers de volumes.
Oui.
Voltaire a été édité, comme d'ailleurs Rousseau à cette époque.
Alors,
après la Révolution, le grand pic d'anticléricalisme
Par centaines de milliers de volumes, je ne sais pas, mais en tout cas ça m'a beaucoup frappé. C'est vers la fin de la Restauration, entre 1825 et 1830, qu'on a les œuvres complètes de Voltaire. Je connais au moins deux éditions d'œuvres complètes de Voltaire, ce qui est gigantesque, les œuvres complètes, il faut le vouloir. Ça correspond à la fin de la Restauration, effectivement. Pas parce que la Restauration se termine, mais ça correspond, après coup, on peut considérer que c'est dans les dernières années de la Restauration.
Ouais. Parce qu'effectivement, c'est la grande période, enfin, d'après ce que je sais, la grande période d'anticléricalisme, c'est la Restauration, avec donc les œuvres de Voltaire, les œuvres de Rousseau, qui sont, je crois, par centaines de milliers, voire par millions d'exemplaires, d'après ce que j'ai lu. Et d'autre part, on joue en permanence et on applaudit Tartuffe, qui est la grande pièce de la Restauration, qui est jouée énormément et qui est jouée contre le christianisme contre la religion, quoi. Donc c'est, en réalité, je crois qu'une partie de l'image de Voltaire ne date pas du XVIIIe siècle, mais elle date du XIXe. Elle date de cette période où le personnage de Voltaire est devenu un emblème de la lutte contre l'Église et des débuts de la grande franc-maçonnerie, etc.
Bah, une fois passé le choc et les déconvenues de la Révolution, qui ont beaucoup atténué, évidemment, le prestige des Lumières dans l'opinion publique.
Un auditeur nous demande si... alors, je rappelle que Xavier Martin qui a écrit ce livre Voltaire méconnu, vraiment un truc qui m'a étonné, c'est époustouflant, et alors avec des notes, enfin tout ça est vraiment parfaitement un travail scientifique magnifique, mais qui se dit très bien, puis avec très beau style de Xavier Martin. Vraiment, Xavier Martin, je vous félicite parce que votre style est très beau, vous avez des expressions, j'aurais dû en cocher, il faudrait que je les retrouve, qui sont vraiment ciselées, donc chez Dominique Martin Morin. Alors ce n'est pas une biographie, hein, le professeur Martin est spécialiste des idées politiques, parce que Canu. Est-ce que le docteur, le professeur Martin peut nous décrire les derniers moments de Voltaire?
Pas trop comment. Je peux d'autant moins qu'il y a des bruits qui ont couru là-dessus, qui sont pas attestés.
Je vous dis qu'il aura avalé son vase de nuit.
C'est peu probable. En tout cas, c'est vrai qu'il est mort. Sa fin a été triste parce que il.
Mais sa vie l'a pas été. Sa vie l'a été aussi.
Oui, sa vie l'a été aussi. Ces dernières années. C'est assez poignant de le voir s'enfoncer dans cette attitude radicalement négative vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de la religion, des secours de la religion. Parce qu'on a le sentiment, je parle là, c'est une impression, hein, c'est difficile, c'est quelque chose qui est quand même assez peu palpable, qu'il fait un effort énorme pour s'enfoncer dans le néant, en quelque sorte. Et le fait même qu'il soit obligé de faire un effort comme ça, laisse songeur. Et on se dit qu'entre lui et Dieu, quand même, le combat était quand même extrêmement inégal. Et ça lui sera peut-être compté. Ça lui a peut-être été compté.
Je vois là le bon fond de votre âme.
Mais j'en suis venu à le penser par moments.
Oui, il faut espérer de toutes les manières.
Prétend que les philosophes avaient fait entre eux un pacte pour se protéger des derniers sacrements, qu'ils veillaient les uns sur les autres.
Oui, alors je ne sais pas s'il y avait un pacte, mais ils étaient très vigilants là-dessus. Ils avaient très peur qu'il y ait des défaillances au dernier moment. Oui. Et on le voit très bien, on le voit notamment dans le livre avec Madame du Deffand, oui. Qui elle est très malheureuse dans ce néant où elle s'est laissée entraîner, qui serait très tentée, elle est très âgée, elle aussi, à la fin de la vie de Voltaire, elle est encore plus âgée que lui, je crois, elle est aveugle depuis longtemps en plus.
Qui fut sa maîtresse?
Je ne crois pas.
Non, elle a pas été sa maîtresse.
Non, elle l'a été d'autres, d'un certain nombre d'autres. Et on sent que Madame du Deffand aspire à autre chose, et on sent que Voltaire est extrêmement vigilant pour l'empêcher de céder au penchant qui la ramènerait vers la religion. C'est très net, oui.
C'est ça qui est difficile à s'expliquer, c'est cette résistance. Parce que surhumaine.
Surtout, il n'avait rien à y gagner. Enfin, qu'est-ce que ça changeait
pour lui?
Non, mais
d'où cela vient? D'où cela peut venir? Oui. Comment, qu'est-ce qui a été le traumatisme de sa petite enfance ou de sa naissance? Ou je ne sais pas, qui a pu l'amener à un tel sentiment de haine du genre humain, de Dieu, de toutes les races, de toutes les religions, de tout.
Je n'ai pas approfondi cela. C'est pas une biographie, effectivement. Donc, je n'ai pas approfondi la question de son enfance. Je le prends, il est déjà dans sa maturité. Ça va durer longtemps, puisqu'il a une grande longévité dans l'activité intellectuelle. Mais il y a des choses. Il est persuadé que sa mère, il est persuadé que son père n'est pas son père. Il en veut à sa mère de l'avoir mis au monde. Enfin, il y a des choses.
Il en veut, mais il en profite quand même quand il est sur Terre, quand même, parce qu'il a quand même mené une vie, grâce à son talent sans doute et à son travail, bien comme une vie quand même très très agréable pour la moyenne des Français ou des Prussiens ou des Russes de l'époque.
Oui, mais il insiste beaucoup sur l'absurdité de la destinée humaine. Ça...
Il est infect avec ses serviteurs aussi, mais c'est invraisemblable.
Il a des comportements très étonnants, notamment un que je rapporte là, où il crache à la figure d'un valet qui est censé lui souffler ses propres vers, puisqu'il s'agit de jouer au théâtre à Ciré, chez Madame du Châtelet. Et comme il ne se souvient pas, il crache à la figure du valet qui a été embauché pour souffler. Il y a une scène assez surprenante qui nous est rapportée par un témoin direct.
Tout à fait, c'est une chose troublante. Bon. Oui. Enfin, nous sommes toujours sur Radio Courtoisie, la radio libre du PRL et de la majorité invisible. J'aime bien cette expression, je la trouve rigolote. Non, c'est rigolo. Bon. C'est alors, on va l'utiliser. Alors, je me tourne vers notre cher Victorien. Est-ce qu'il y aurait des messages concernant cette... dont nous traitons présentement.
Nos prêtres ne sont pas ce qu'un vain peuple pense. Notre crédulité, c'est toute leur science. Signé Voltaire, qu'en pense votre invité?
Je pense que c'est tout à fait
c'est bien écrit
dans l'esprit de Voltaire, c'est très au-dessous de la violence anticléricale.
Ça, c'est très gentil.
Rappelons que c'est une pièce qui s'appelle Mahomet ou le fanatisme.
Qui était une pièce d'abord catholique.
Anticatholique, sous le voile de
Mahomet.
C'est tiré de Mahomet.
Oui.
Le livre de Monsieur Martin est exceptionnel. Vous devriez étendre le sujet à tout le siècle des Lumières.
Ben écoutez, cette remarque est m'amuse un peu parce que le nom de Voltaire ne devait pas figurer sur le titre du livre. Il y a figuré au dernier moment parce que le sujet de ce livre, c'est le mépris et la haine dans la pensée des Lumières. Et il s'est trouvé, une fois que je l'ai terminé, que la part que Voltaire avait prise
c'est considérable.
Dans cette thématique justifiait qu'on attire l'attention sur son nom particulier. Et je ne crois pas que le titre démente, que le livre démente l'accent mis ainsi sur Voltaire. Mais c'est très tardif le choix
est intéressant parce qu'il intrigue. Surtout un titre aussi Benoît. Voltaire méconnu.
Ben c'est ça.
L'impression, tu as des souvenirs de. Enfin, vous connaissez un petit peu. Je me pensais bien que ça n'allait pas d'une espèce de conte à l'eau de rose. Mais c'est vraiment. Alors, c'est un travail époustouflant. Alors, je voulais quand même signaler que vous allez signer. D'abord, vous étiez ce matin chez ma très bonne camarade de Loudunelli. C'est très bien parce que il faut. La pédagogie est faite de répétition, donc il ne faut pas hésiter. vous signerez donc. Samedi prochain, le 18 novembre, de 10h30 à 13h et de 14h à 18h, toute la journée. Quel courage, à la librairie France Livre. Donc, on connaît tout ça, c'est rue du
Petit Pont
à Paris. 6 rue du Petit Pont à Paris, merci monsieur l'abbé. Également, le mercredi 22 décembre, tout l'après-midi.
Non, novembre.
22 novembre, autant pour moi, pardon. De 14h30 à 18h30 à la journée des écrivains catholiques. Donc, c'est la mairie du 6e arrondissement, place Saint-Sulpice. Et puis, on pourra vous retrouver. Nous retrouverons tous ensemble le dimanche 10 décembre pour la grande fête de Renaissance catholique à Villepreux, où là, on va être très, très, très nombreux et on va passer une très bonne après-midi tous ensemble. Moi, ce que je peux dire, c'est que, comme tous les travaux que vous nous avez offerts jusqu'à présent, ce sont des choses qui méritent d'être relues. Je n'en suis qu'à ma première lecture. Et j'attends d'avoir encore un peu de temps pour pouvoir me relancer de nouveau dedans. C'est un livre extraordinaire qui nous donne sur Voltaire, sur les philosophes des Lumières, sur l'époque et sur l'Europe des Lumières, parce qu'il n'y a pas que la France, c'est l'Europe des Lumières qui nous donne précisément, je dirais, tant pis si c'est un peu usé comme blague, mais un éclairage totalement différent de celui que la pensée du politiquement correct ou de l'historiquement correct nous donne. Quand on pense qu'il y a encore tant de places Voltaire, de boulevards Voltaire, de square Voltaire, de métro Voltaire, de collège Voltaire, on est absolument sidéré. Je veux dire, vraiment, moi je suis sidéré. Parce que s'il faut juger les choses, les personnes au talent littéraire, alors je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas, d'autres noms que Voltaire, quoi.
Ouais. Ce qu'il faut bien insister, c'est que tout cela, le travail du professeur Martin, est sur texte.
Ah, sur texte, sur texte.
Tout est justifié par le texte, la référence, la citation trouvée, référencée et de première main, bien sûr. C'est ça surtout qu'il ne s'agit pas d'une rêverie ou parce qu'il n'aime pas Voltaire.
Non, c'est des faits objectifs.
Les gens ne sont pas d'accord, s'il y a des gens qui veulent défendre Voltaire, il faut le défendre sur texte.
Voilà.
Et non pas sur.
J'ai une petite question à vous poser, c'est avec la permission de l'abbé qui va avoir la parole dans quelques minutes. Je n'ai pas trouvé l'explication de l'énigme que vous posez, puisqu'à plusieurs reprises, je n'ai pas très bien compris, plusieurs fois, vous dites dans votre livre, Voltaire était un auteur protégé, et vous soulignez, c'est-à-dire le protégé apparaît en italique dans l'ouvrage, et je n'ai Je me suis interrogé, je dis, qu'est-ce que ça veut dire?
Il est un auteur protégé. J'ai voulu suggérer par là, et d'une manière relativement discrète, mais en même temps assez explicite, que un certain nombre de gens mentent à son sujet, en connaissance de cause. Alors je crois que l'immense masse des gens qui parlent de Voltaire, qui le vantent, qui le proposent comme référence pour l'antiracisme, etc., ou l'anti-prétendu racisme, je crois que la grande majorité dans l'enseignement sont sincères. J'en suis venu à me poser la question il y a quelques années, est-ce que je me suis dit, mais est-ce que les grands spécialistes, eux, ne mentent pas ?
Ceux qui ont fait le dictionnaire oui. Voltaire, les normes machin.
Et il n'est pas pensable que certains d'entre eux aient conscience de toujours dire la vérité, vu ce que j'ai trouvé dans la documentation et qu'ils ne peuvent pas ne pas avoir rencontré eux aussi.
D'accord.
Est-ce que je suis assez clair ?
Oui, vous êtes assez clair, mais voilà, je pensais bien à cela. Je pensais que se protéger valait sans doute pour le temps de Voltaire, où les protections ont été considérables.
Bah, le directeur de la librairie, c'est comment il s'appelle le directeur de la librairie.
Monsieur Malherbe. Malherbe a protégé. Donc il y avait des très hautes choiseuls, des très hautes protections de la société politique du temps, de très hautes protections internationales, des protections de la petite tourbe des philosophes, mais aussi de la protection posthume, c'est-à-dire le mensonge qui s'est accumulé sur Voltaire et qu'on trouve jusque chez les grands spécialistes du personnage.
C'est surtout chez eux, évidemment, puisque c'est eux qui tiennent la clé du dossier, en quelque sorte.
Bon, alors ça, c'est vraiment le livre à avoir dans sa bibliothèque, à condition de le lire. Hein. Encore que l'éditeur serait absolument très tout à fait heureux que tous les éditeurs de Radio Courtoisie achètent le bouquin. Ça lui ferait très très plaisir, puisque c'est un éditeur très valeureux, je trouve, Dominique Martin-Morin. Mais enfin, il faut le lire, il faut prendre le temps de lire, il faut le lire. C'est un livre qu'on lit avec regret, parce que on en voudrait plus. Et aussi avec dégoût, non pas qu'il soit mal écrit, mais parce qu'il nous ouvre des perspectives absolument invraisemblables. Et moi, je n'avais pas du tout cette idée-là, je ne mets pas Voltaire pour des tas de raisons, mais vraiment, dans le détail,
j'ai été très étonné de certaines choses, et jusqu'au bout. J'ai trouvé des choses qui m'ont beaucoup étonné jusqu'au dernier moment.
Allez donc à la librairie France Livre, 6 rue du Petit Pont, Paris 5e, samedi 18 novembre prochain, toute la journée, donc 10h30, c'est simple, Xavier Martin ouvre le volet de fer, il passera d'ailleurs le balai dans la librairie, et le soir à 18h, au moment de la fermeture, il sera encore là, il baissera le rideau de fer. Donc vous pouvez y aller toute la journée, sauf quand même vous laisserez une petite heure pour qu'il déjeune, et il pourra vous dédicacer ce livre et vous pourrez peut-être poursuivre avec lui cette discussion que j'essayais d'amorcer ce soir pour vous donner le goût et l'intérêt de ce magnifique travail. Nous donnons quelques minutes. Je salue d'abord l'arrivée dans le studio de notre ami Louis Fontaine, qui est prévu pour la seconde partie de l'émission, mais il voulait profiter de toutes les bonnes choses que Xavier Martin était en train de nous dire. Et vous avez peut-être des messages.
C'est-à-dire j'ai des messages, mais qui reprennent, enfin qui sur le début tout le début.
On ne parlera pas ce soir. Non, mettez-les de côté pour Serge la semaine prochaine s'il souhaite y répondre. Mais là, ça y est, c'est l'affaire est pliée, comme on dit.
Vous ne voulez pas les différentes tendances.
Non, mais je sais qu'il y aura toujours des différentes tendances. Dans tous les cas de figure possibles, il y aura toujours différentes tendances. Bon, ce qui compte encore une fois, c'est que Radio Courtoisie continue. Sauf qu'on m'administre, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui souhaiteraient qu'elle s'arrête et qu'elle en termine là, 19 ans de service au service de la France, mais je crois que ça vaut encore la peine d'aller un peu au-delà, puisqu'aujourd'hui, de toute façon, avec toutes les médications qui sont possibles, on peut vivre beaucoup plus vieux que 19 ans. Oui, chère Victoria. Donc, pas de message particulier sur Xavier
Non, pour monsieur.
Bon, auriez-vous la gentillesse de nous donner quelques petites nouvelles, qu'il y a des choses agréables?
Je voulais vous remercier.
Cette invitation et cet accueil. Non, c'est trop gentil à vous, mais c'est plutôt à nous de vous remercier du travail que vous faites depuis des années et des années. Nous, on est là juste pour faire connaître le travail que vous faites, qui est un travail vraiment admirable et qui mérite donc d'être soutenu autant que nous le pouvons.
On peut peut-être redonner le titre exact, Xavier Martin, donc Voltaire méconnu, aspect caché de l'humanisme des Lumières, 1750-1800, et c'est aux éditions Dominique Martin Morin. Le prix, 26 euros.
26 euros, qui n'est pas très cher pour un livre, un très beau livre qui fait 350 pages et je compte pas les notes qui sont encore très petites. Hein. Bon, voilà. Mais sinon, non, ça se lit. N'ayez pas peur, amis auditeurs. On n'est pas obligé de lire les notes. On peut lire tout. Puis après, c'est quand on a un doute, on peut revenir et trouver la justification de ce qu'on dit. Voulez-vous nous faire une petite annonce pour le
Un auditeur vous disait à Serge de Beketch, vous avez sifflé la récréation. N'oubliez pas de siffler le Beaujolais nouveau. Oui.
À ce sujet.
À ce sujet. Soirée. Beaujolais nouveau, ça se passe le jeudi 25 novembre de 16h à 20h.
Dégustation. 23.
Pardon,
23. C'est parce que c'est une télécopie, donc c'est pas très net. C'est le 23. Elle a déjà fêté le Beaujolais nouveau.
Non, c'est pas ça,
mais
c'est
toujours.
Si vous lisez 23, là, vous, bravo.
Écoutez, je ne sais pas, non, écoutez, je ne peux pas.
Vous m'offrirez un verre de Beaujolais.
Mais non, c'est jeudi 16 novembre, c'est demain le Beaujolais nouveau. C'est le 16 novembre.
C'est pas 23, ni 16.
Voilà, c'est demain que ça arrive.
Je veux dire que sous les...
Que cette boisson qui a le nom de vin arrive demain.
Oui, c'est pas du vin, c'est pas très bon, enfin.
Oh.
Les goûts et les couleurs, faut pas discuter. Hommage de la presse libre et indépendante.
On en a du bon, des fois, cherchant bien.
Hommage de la presse libre et indépendante à Jean Ferré, fondateur de Radio Courtoisie. Jean Ogui, Jeanne Smith et Olivia Figueras. Thierry Bouzard, Emmanuel Ratier, Jean-Marie Molitor, Patrick Goffman et Benjamin Guillemin seront donc à la librairie Duquesne Diffusion pour les dédicaces de livres de Rémi Fontaine, le livre noir des évêques de France, Yves Amiot, Une affaire d'honneur, l'affaire Dreyfus, Thierry Bouzard, Antoine Dégis de la musique France, militaire française, Emmanuel Ratier, Encyclopédie politique française, Benjamin Guillemin, La subsidiarité. Et une bouteille de Beaujolais sera offerte pour tout achat de 100 € ou un abonnement à Lecture française et ou Lecture et tradition.
Voilà, on peut acheter de toute façon pour 100 €, mais on n'est pas obligé de prendre la bouteille ni de la boire. C'est une question de goût après tout. Voilà. Et ne croyez pas que je sois un buveur d'eau, parce que là vous mettriez le doigt dans l'œil. Mais là, des fois le Beaujolais, je ne sais pas, monsieur l'abbé.
Non, c'est pas.
Vous
n'êtes
pas, c'est pas vraiment votre tasse de thé, si puis-je dire, pour poursuivre la métaphore. Eh bien, cher abbé, fidélitaire, numéro de novembre-décembre 2006, numéro 174, quand même pas mal, hein, 174, parce que c'est un bimestriel, ça faisait 4 ou 5 numéros par an ?
6 numéros par an.
6 numéros, vous faites, même l'été, vous faites juillet-août, tout ça, quoi. Voilà. Bon, ben, c'est très bien, 6 numéros par an, donc ça fait déjà un bon paquet d'années que la revue existe, même si vous n'étiez peut-être pas à tous ses débuts, c'est tout début, non ?
Non, moi je suis là, c'est ma 12e année, mais donc elle a été fondée en 1978, donc on va bientôt fêter les 30 ans de cette revue.
Qui a
donc effectivement traversé toutes les dernières décennies qui ont été riches d'agitation et de difficultés et de joie aussi.
Et de joie, oui.
Voilà.
Alors ce numéro, j'ai souhaité que vous veniez en parler parce que d'abord j'aime bien vous recevoir, j'aime bien parler de fidélitaire, même si vous savez que certaines mauvaises personnes pensent que je vous suis absolument hostile, ce qui est assez rigolo parce que je vous invite quand même assez souvent, mais enfin bon, c'est comme ça, des gens qui ont des mauvaises pensées. Bon. Par contre, cette fois-ci, c'est le sujet de ce numéro qui m'a vraiment beaucoup touché, parce que c'est une question sur laquelle aussi je réfléchis, ou sur laquelle je lis aussi pas mal de produits, et malheureusement pas en langue française. C'est la question de l'apologétique, qui est sous-titrée donc dans votre dossier « Apologétique, la grande oubliée ». Et je dirais même la grande inconnue de beaucoup de contemporains français, y compris d'ailleurs de catholiques tout à fait convenables, par ailleurs, mais l'apologétique, ça, parce que, est-ce que vous pouvez déjà esquisser une définition de l'apologétique ?
Voilà, je pense que pour beaucoup d'auditeurs, ça fera un peu vieilliste, un mot qui fait un peu vieillot, un peu dépassé, on se dit l'apologétique, c'est des vieux trucs du 19e siècle, poussiéreux, alors que c'est un enracinement extrêmement profond, puisque les pères de l'Église ont fait des apologies. Les premiers pères qu'on connaît s'appellent les pères apologistes, pères apostoliques, puis ensuite pères apologistes. Donc c'est vraiment au cœur de... Alors l'apologétique, c'est l'art et la science et l'art, plus exactement, parce que l'un se suit, la science et l'art de la conversion. La science, c'est vraiment les connaissances de la conversion, de ce qu'il faut dire aux autres pour leur expliquer ce qu'est notre religion, et l'art, puisqu'il y a dans l'apologétique des façons de faire, parce que on fait pas boire un âne qui n'a pas soif, donc on va s'adresser à chaque personne en fonction de ses besoins, de ses désirs, mais avec une base
adaptée.
Voilà, s'adapter à ce là où elle se trouve et quelles sont les questions qui sont les siennes, pour l'amener avec la grâce de Dieu, parce que c'est pas nous qui convertissons, nous participons à une démarche de conversion éventuelle, pour l'amener à une connaissance de la foi suffisante pour qu'ensuite, sous la motion de la grâce, si elle veut la recevoir, elle puisse adhérer à la foi. Donc c'est vraiment une science absolument importante, parce que tout chrétien qui a discuté de sa foi, qui a défendu sa foi, qui a fait, comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir, il a fait de l'apologétique sans le savoir. Mais il est mieux quand même de savoir correctement, de connaître ce dont on va parler, plutôt que de ne pas le connaître. Même si spontanément on trouve quelques arguments, mais pas toujours de la qualité requise, alors qu'il faut l'apprendre. Et donc ce dossier fait suite à une université d'été qui a été faite par M. l'abbé de Cacré,
qui est le supérieur du district de France, de la fraternité sacerdotale.
Et il a voulu faire une université d'été sur l'apologétique, donc à la fois théorique et pratique. Il y avait près de 200 personnes, dont beaucoup de jeunes, pour qu'ils puissent vraiment se former à cette capacité. Parce qu'aujourd'hui, il y a certainement une grande demande spirituelle, une immense ignorance, et qu'il faut que les chrétiens, comme dit saint Pierre, soient capables de rendre compte de l'espérance qui est en eux. Et ne soit pas un jour, j'ai un ami comme ça qui a été pris à partie au sortir d'un métro, quelqu'un qui lui distribue des tracts, et c'était, je sais plus si c'est Scientologie ou le témoin de Jéhovah, peu importe. En tout cas, c'était une jeune fille qui était scientologue ou témoin de Jéhovah, qui s'adresse à ce jeune, 18-20 ans, qui a fait des études supérieures, etc. Et qui lui dit, moi je suis une ancienne catholique. Et elle lui a posé quelques questions sur sa foi, et il est resté sec. Et il est revenu, on en a parlé, il m'a dit, j'ai été honteux de ne pas connaître les bases de ma foi pour pouvoir la défendre.
Là, c'est peut-être plus de l'apologétique, c'est simplement du catéchisme.
Simplement du catéchisme. Mais dans l'apologétique, il y a une part tout simplement catéchétique, mais il y a aussi à la fois donc la connaissance donc théorique d'un certain nombre de choses qu'il faut savoir pour pouvoir justifier sa foi, et également, bien sûr, tout l'aspect de l'art. Et nous nous sommes en particulier arrêtés sur l'aspect de l'art parce que dans nos milieux, je dirais, d'une façon générale, il y a un petit peu une tendance à arriver avec le paquet, on le balance sur l'adversaire, et on lui dit, t'as qu'à croire, sinon t'es un mauvais. Alors que non, il faut, tous les saints ont été des hommes de dialogue, ont été, dans la foi, bien sûr, des hommes de bonté, des hommes de subtilité, des hommes de plaisanterie aussi, quand il le faut, savoir détendre l'atmosphère. Et donc cet art de l'apologétique est très important. Et aujourd'hui, on s'en affranchit trop facilement.
Mais alors pourquoi l'apologétique a-t-elle eu, disons, au cours des 40 ou 50 dernières années, une aussi mauvaise presse? Pourquoi l'a-t-on remisée au grenier?
Je pense que c'est toute cette ambiance qui a accompagné le Concile Vatican II, mai 68, ou qui est causé par eux, ne discutons pas de ce fait, qui est l'enfouissement, la pastorale de l'enfouissement. La pastorale du dialogue. Et derrière la pastorale du dialogue, il y a beaucoup, toutes les religions se valent. Et l'enfouissement, ce qui est important, c'est s'enfouir. Et puis peut-être, éventuellement, des gens se poseront des questions sur nous. On peut prendre un exemple historique, puisque nous sommes dans la région parisienne. Lorsque la Défense, donc le grand centre de bureau de la Défense a été construit, les constructeurs du centre ont proposé au diocèse de Paris, lui ont dit, nous vous construisons une église gratuite. Et nous vous la donnons. Nous vous construisons. Nous faisons une immense. Il y aura une population énorme qui va venir tous les jours ici. Nous vous construisons une église et nous vous l'offrons. Et le diocèse de Paris a refusé. Il a dit non, ça serait triomphaliste. Vous voyez, donc c'est les années 60, ça serait triomphaliste. Et il n'y a pas eu d'église. Il y a eu une salle polyvalente, discrète, pratiquement invisible. Au milieu de ces immenses tours, il y a une salle polyvalente discrète. Et il y a eu une église, je ne sais pas si elle est finie d'être construite ou si elle est en construction.
Souterraine ou je
qui a, non, qui a été construite, qui a été construite ou qui est en train d'être construite actuellement, ou en tout cas dans les dernières années, à la demande des chrétiens qui ont dit, mais non, nous on est chrétiens, on veut pouvoir dire, bah, venez à notre église, on va pouvoir se manifester comme chrétien. Et donc c'est toutes les 30 dernières années, je dirais, 40 dernières années, c'est la pastorale de l'enfouissement. Il faut pas se manifester comme chrétien parce que ça serait violenter la liberté des autres ou des sottises comme ça. Et je dirais, actuellement, c'est clair qu'il y a un renouveau de l'identité chrétienne. Les chrétiens ont envie d'être chrétiens et ont envie de le dire tranquillement. Pas d'assommer leurs interlocuteurs, mais d'être chrétien et de le dire. Ben oui, nous sommes chrétiens. Voilà pourquoi nous le sommes et voilà les justifications de ce que nous sommes. Et donc cette démarche de M. l'abbé de Cacré, de fidélité à l'université d'été, s'inscrit dans cet élan qui veut aller à la rencontre. Nous avons un patrimoine, nous avons un trésor de la foi qui est immense. Mais il ne faut pas être confiné dans nos petites chapelles, il faut bien entendu ferme dans la foi, etc. Mais il faut rayonner tout cela, et il y a de la demande. Moi, je vois dans l'église que je desserre, il arrive tout le temps des gens nouveaux que je ne connais pas. Je me dis, mais d'où ils sortent? Eh bien, ça veut dire que des fidèles sont allés à leur rencontre, ont manifesté leur foi, leur ont expliqué, ont détruit des préjugés. Mais vous, les traditionnalistes, vous êtes comme ci, comme ça, vous êtes des méchants, vous mangez les petits-enfants, ou que je ne sais pas quels sont les... Donc, témoigner, mais témoigner d'une façon construite, pas d'une façon, on a raison, donc t'as tort, donc ça c'est pas suffisant, une espèce de mauvais charismatisme, Jésus même, donc c'est vachement bien. Non, il faut justifier, il faut intellectuellement, notre religion est quand même fondée sur une vérité intellectuelle, le dogme est fondé rationnellement et sur la parole de Dieu, il s'articule, il se comprend, il est mystérieux, mais il a vraiment des fondements réels, et donc il faut savoir justifier et aussi répondre aux besoins des personnes, car toute personne a des démarches différentes. Il y a des questions. Vous savez que Saint François de Sales, qui est le patron des grands convertisseurs, c'est l'homme, le patron des journalistes d'abord, Saint François de Sales, et puis le patron des convertisseurs. Et il y a un moment où il y avait une femme protestante qui était arrêtée sur le chemin de la foi catholique, de la conversion, uniquement par le fait que les prêtres ne se mariaient pas. Et elle venait régulièrement voir Saint François de Sales en lui disant, mais je comprends pas. Et alors Saint François de Sales, pendant des heures et des heures, lui expliquait pourquoi le célibat des prêtres, pas de teint couffin, etc. Et il revenait, elle revenait 15 jours après, oui, mais je comprends pas pourquoi pas le célibat. Alors, et un jour, je dirais, il a fini par craquer, il a dit, madame, si j'avais une épouse, elle vous aurait foutu dehors depuis longtemps. Et là, elle a dit, ça a été le déclic de sa conversion. Elle a dit, oui, là je comprends bien. Entre femmes, on se comprend. Donc, alors, voilà. Donc, il faut savoir s'adapter, et l'apologétique, c'est une science et un art. Et les deux sont également vrais.
Nous allons y revenir, nous avons encore de nombreuses minutes devant nous. Juste ces deux messages pour, à l'attention que vous avez, Martin, un auditeur nous dit qu'il recommande le livre L'homme des droits de l'homme et sa campagne, qui est aussi instructif sur ce sujet. C'est un livre absolument épatant. Là, je pense peut-être que je vous ai reçu, non ?
Oui,
il me semble que vous avez reçu. Ça, c'est un livre. Mais enfin, tous les livres de Xavier Martin sont vraiment absolument passionnants. Et puis un autre auditeur nous signale que ce livre de Xavier Martin est indiqué comme indisponible sur Amazon. Vous savez, Amazon.fr, c'est là où on peut commander les livres. Auquel cas, on peut le commander à son libraire. C'est étonnant, mais ça peut arriver des fois.
Ça m'a déjà été dit.
Voilà, alors c'est peut-être des bugs informatiques. Mais de toutes les manières, vous pouvez le commander à votre libraire, puisque la maison d'édition Dominique Martin-Morin est très connue. Et puis, pour ceux qui sont à Paris, eh bien, ils pourront aller se le faire dédicacer samedi prochain, 18 novembre, de 10h30 jusqu'à 18h, à la librairie France Livre, 6 rue du Petit Pont, 75-005, Paris. Alors, très bien, mais voilà, merci. Donc, cher Abbé, donc ce que vous disiez est intéressant. L'apologétique. Je crois que le Saint-Père Benoît XVI, à plusieurs occasions, a remis un peu les pendules à l'heure, ou c'est peut-être un peu familier comme expression, mais disons, nous a réorienté vers le nord qui, lui, ne bouge pas. Voilà. En nous disant que le dialogue interreligieux, oui, à la condition que la partie dialoguante catholique soit absolument bien sûre de ses propres convictions et bien formée pour le débat. C'est quelque chose d'assez nouveau. Il est possible qu'on ait interprété pendant une trentaine, une quarantaine d'années le dialogue interreligieux qui en soi, là vous donnerez votre point de vue après, n'a pour moi absolument rien de répréhensible ni d'abominable. Il l'est si il est abandon. S'il est abandon, s'il est relativisme, si on estime que les vérités que vous assène l'autre partie du dialogue sont bien meilleures que les vôtres, quelqu'un ne vous reste plus qu'à vous convertir au protestantisme, à l'orthodoxie, à l'islam, ou au bouddhisme, ou à la religion de l'oignon, à ce que vous voulez. Bon. Donc, encore une fois, il ne peut y avoir de dialogue interreligieux valable et porteur de fruits, et ne peut porter de fruits, que si la partie dialoguante catholique, le côté catholique du dialogue, est absolument sûr de sa foi, fort de ses convictions, et intelligent de son argumentation, de son apologétique. Est-ce que vous seriez d'accord pour que cette définition, c'est pas moi qui la donne, c'est le Saint-Père, est-ce que ça vous irait à vous?
Disons, que je ne vais pas m'étendre...
Ah, je me doutais que ça allait pas être aussi franc que ça.
Voilà, je ne vais pas m'étendre sur le dialogue interreligieux vu par Vatican II, qui est une question assez complexe.
Je vous parle de Benoît VI.
Non, mais assez complexe et difficile, mais il est évident. Donc, est-ce que le dialogue interreligieux voulu par le Concile ou même par Benoît XVI, mettons-le de côté, mais il est évident que toute démarche de conversion et de prédication, auprès de l'infidèle, pas forcément pour le fidèle à qui on peut rappeler, etc. Mais toute prédication est un dialogue, c'est évident. Ou alors on est avec, comme dans Astérix avec le goth là qui tape, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est l'argument psychologique, oui c'est ça. Bon, mais sinon, non, on dialogue. C'est-à-dire qu'on prend la personne là où elle est et on va. C'est Platon qui nous en a, Socrate et Platon nous en ont donné le modèle. On va l'amener par un certain nombre de questions et de réponses jusqu'à une meilleure compréhension des choses.
Qu'à la maïotique, voilà. La découverte par soi-même d'un certain nombre de choses évidentes et indiscutables que la raison ne peut pas objecter.
Voilà. Donc, il est évident. Et ça, c'est le Dominique Vian le rappelle à un moment de façon humoristique, mais vrai. Il dit, attendez, on ne peut pas concevoir une démarche apologétique telle qu'elle soit sans un dialogue. Certes, aujourd'hui, le dialogue a mauvaise presse à cause de ces errements du mauvais dialogue interreligieux, mais en soi, il est inconcevable et tous les saints qui ont pratiqué cela ont pratiqué une forme de dialogue, bien entendu, sous des convictions fortes, celles de la foi, avec une volonté d'aider la personne à aller vers la foi qui est le plus grand bien spirituel.
Par la raison.
Voilà. Mais, alors,
par la raison, par la raison.
On va y revenir tout de suite. Mais d'amener les saints sans le forcer, puisque, comme le rappelle le code droit canonique, nul ne peut être obligé d'embrasser la foi. Alors, la question de l'apologétique, c'est que l'apologétique est une science qui amène au seuil de la foi. La foi est un don de la grâce qui meut l'intelligence pour adhérer à la parole de Dieu. Cela, l'apologète ne peut pas le donner. Du moins, il peut prier, il peut faire des sacrifices. Ça, c'est dans l'ordre de la communion des saints, mais c'est une autre question. Donc, l'apologétique est une partie de la théologie, mais qui use d'arguments rationnels pour mouvoir la raison, l'intelligence pure, l'intelligence non éclairée encore par la foi, pour l'amener au seuil de la foi. Ce seuil de la foi étant de deux genres, même trois, si vous voulez. Premièrement, la foi n'est pas contraire à la raison. Deuxièmement, les arguments contre la foi soit sont faux, soit ne sont pas probants. Et troisièmement, la foi est désirable. Elle a des biens tels en elle que l'homme a le désir. Maintenant, la conclusion d'une démarche apologétique, c'est de dire la foi est raisonnable, la foi est désirable, les objections contre la foi ne sont pas probantes. Et s'il ne s'agissait que d'une question humaine, je devrais y adhérer. Maintenant, c'est une question divine. Seule la grâce va pouvoir faire passer de l'autre côté. Et nous voyons dans les conversions une vraie démarche où à un moment l'âme est convaincue de la vérité rationnelle de la foi et n'a pas encore fait la démarche. Et à un moment, la grâce la grâce. On le voit par exemple chez saint Augustin. Saint Augustin, il est vraiment déjà convaincu, et à un moment, il y a vraiment une grâce, le tollé léger, quand il lit l'évangile, et à ce moment-là, il bascule sous l'influence de la grâce. Donc, l'apologète est un homme, c'est une partie de la théologie, c'est-à-dire l'apologète est lui mu par la foi, lui mu par la grâce, mais la personne qui est en face est encore sous l'influence de la raison, n'est-ce pas, avec des grâces actuelles, avec des aides de Dieu bien sûr, hein, pour la mener au seuil de la foi, et après, ce n'est plus le rôle de l'apologète, c'est le rôle éventuellement du chrétien qui va, par la communion des saints, aider l'âme à franchir le pas.
Merci monsieur l'abbé Grégoire Cellier pour ce brillant exposé sur l'apologétique. Voilà une science qui va nous redevenir extrêmement sympathique. Maintenant, il va falloir faire des traités d'apologétique. Donc, je rappelle, c'est la revue Fidélitaire, le numéro 174 de novembre-décembre 2006, dont le dossier principal est consacré à l'apologétique, la grande oubliée, avec beaucoup, beaucoup d'autres, évidemment, voilà, d'autres informations sur l'actualité de la tradition.
C'est que l'abbé de Cacré, dans son éditorial, note que, étant donné que l'apologétique a cet aspect artistique, si vous voulez, l'art de l'apologétique, qui doit s'adapter, donc les livres de l'apologétique sont des livres d'époque.
Oui.
Ils se périment, la grande théologie se périme moins. Et il faudrait, c'est un petit peu un désir qu'a le Cacré, il faudrait qu'il y ait des livres d'apologétique adaptés à l'époque actuelle, ça serait très utile, et il y en a quasiment pas. Et ça, c'est un grand manque, parce que les gens nous demandent souvent, qu'est-ce que je pourrais donner à quelqu'un pour lui faire découvrir la foi? Et il y a quasiment rien.
Alors, il y a beaucoup de choses aux États-Unis, je m'empresse de le dire, il y a beaucoup de sites, enfin, beaucoup, un certain nombre de sites de très grande qualité qui sont des sites d'apologétique. Il y a le site de Catholic Answer, il y a Catholic Apologetics of America. Il y a vraiment des sites que nous n'avons pas en France. Nous n'avons pas ces choses-là.
Page 33,
vous pouvez vous donner des petites références,
On lit le livre de...
Voilà, parfait.
Of the Catholic Church, Bult, Wiltern, Civilisation.
De Walt, c'est extraordinaire. Moi, j'ai lu le chapitre sur les moines, c'est remarquable. Ça aussi, voilà, des livres.
Voilà, et c'est un livre.
Comment l'Église catholique a construit la civilisation occidentale. Voilà, un traité d'apologétique est passionnant.
Et actuel.
Oui, absolument. Mais là, bon, ce n'est pas traduit en français. Il faut donc faire un effort de traduction. Il faut qu'on s'y mette. Il faut redonner de la vigueur à l'apologétique. Donc, je rappelle que c'est très simple. Vous allez donc samedi prochain, vous faire dédicacer l'ouvrage de Xavier Martin, Voltaire méconnu à la librairie France Livre, et boum, vous achetez en même temps Fidélitaire.
Voilà.
Hein, on ne fera pas un prix pour les deux, mais enfin, comme ça, c'est...
Ou sinon, voilà, sinon, vous pouvez le commander aux éditions Clovis, boîte postale 88 91 152 Étampes. Édition Clovis, boîte postale 88 91 152 Étampes. On va peut-être donner le numéro de téléphone si les gens veulent téléphoner. Étampes CEDEX, voilà. Donc, 01 69 78 30 23. 01 69 78 30 23.
C'est vendu 7,50 euros,
Franco de Port.
Voilà. Merci Franco de Port. Merci monsieur l'abbé.
J'ai un message là.
À part le chat dans la gorge, qu'est-ce que vous avez d'autre à nous dire?
L'apologétique séduisait jadis les gens, car les trois quarts des Français ne savaient ni lire ni écrire. Ça, c'est il y a longtemps. C'est pour cela qu'elle avait un effet sur les gens. Aujourd'hui, tout le monde est instruit et vérifie toutes sortes de discours et évite ainsi les paquets emballés sans vérification.
Oui, non, mais là, c'est complètement en dehors,
du sujet. En plus, je ne suis pas d'accord avec cette auditrice ou cet auditeur qui dit que autrefois trois quarts des Français ne savaient pas écrire.
Il
n'a pas tort, parce que aujourd'hui, seul un quart des Français sait lire et écrire.
Voilà.
Bon, ce qui nous remet à peu près dans la même...
Mais il faut dire que l'apologétique, je dirais, la plus construite date du XVIIe, XVIIIe siècle, où, je regrette, mais les Français savaient majoritairement lire et écrire.
Évidemment. Depuis... Autre remarque?
Ça revient un peu en arrière, c'est sur Voltaire.
Oui.
Même si M. Morin a raison de décrire Voltaire comme un être fourbe, il a rendu un grand service à la société en ébranlant les fondements de l'Église qui était devenue intolérante. Il a participé à l'implantation de la laïcité en France, dont nous bénéficions. Voltaire est un bienfaiteur de l'humanité.
Ben oui, on a toutes sortes d'auditeurs. Ben alors voilà, pour le fois, mais ce soir, on parlait à la majorité invisible, à quelqu'un de la minorité visible qui s'exprime.
Oui, c'est un auditeur qui a du mérite de cotiser, de payer sa cotisation.
Oui, il n'est pas sûr qu'il cotise d'ailleurs, parce que nous avons beaucoup de personnes qui ne cotisent pas. D'ailleurs, je rappelle quand même que Radio Courtoisie ne vit que des cotisations de ses auditeurs, que le minimum syndical, c'est 40 euros par an. Envoyez vos chèques 61 boulevard Murat, 75-016 Paris. Tant que les euros ne poussent pas sur les arbres, on a besoin de cotisations.
Une auditrice nous dit qu'il y a aussi sur Voltaire le livre de l'abbé Augustin Baruel, 1741-1820, mémoire pour servir à l'histoire du jacobinisme.
Oui, oui, bien sûr, mais c'est très différent. Le principe pages. Est absolument, le travail de Xavier Martin est absolument, n'a pas grand chose de vague. Baruel est surtout, c'est un travail de fond sur des fonds d'archives auxquels Baruel, à mon avis, n'avait pas eu accès, en tout cas sur la correspondance.
Frédéric II a dit, en évoquant Voltaire, si j'avais une province à punir, je la ferais gouverner par un philosophe.
Oui, ça c'était à la fin, il avait compris à qui il avait affaire.
Merci. Sur chapitre.com, on peut se procurer tous les livres.
Je ne suis pas au courant, donc je ne préfère pas en parler parce que c'est encore, on peut peut-être donner une mauvaise information. Vérifions nos informations avant de les donner.
Bismarck, cultivant volontiers le paradoxe, disait du bavarois qu'il était le chaînon manquant entre le singe et le prussien.
Eh bien voilà, un vrai voltairien. Merci Xavier Martin, merci monsieur l'abbé Cellier de toutes ces bonnes choses. Et nous nous retrouvons dans quelques instants. Merci.
De passer la soirée en notre compagnie. Je vous rappelle notre rendez-vous de 21h tout à l'heure, les soirées musicales en compagnie de Claudio, la discothèque pour connaisseurs et amateurs tout d'abord avec un enregistrement du Requiem de Fauré, 22h les musiques de films et 23h les grands pianistes, dernière émission consacrée à Karl Engel avec en illustration des émissions des œuvres de Schumann. Tout de suite la seconde partie du Libre Journal de Serge de Beketch. Vous écoutez Radio Courtoisie, il est 19h30.
Radio Courtoisie,
la radio libre du pays réel
et de la francophonie.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris sur 95,6 MHz, à Caen sur 100,6, à Chartres sur 104,5, à Cherbourg sur 87,8, au Havre sur 101,1, au Mans sur 98,8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur notre site internet radiocourtoisie.com. Vous écoutez le Libre Journal de Serge de Beketch, dirigé aujourd'hui par Daniel Amich avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 15 novembre 2006 de 18h à 21h, en différé jeudi 16 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce Libre Journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez vos chèques à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82 ou par courrier électronique en écrivant à contact@radiocourtoisie.com.
Eh bien, rebonsoir à nos chers auditeurs, rebonsoir à la majorité invisible qui les écoute ce soir en direct du studio Jean Ferré de Radio Courtoisie, la radio du pays réel et de la francophonie. Je salue tout de suite dans le studio nos deux de nos nouveaux invités de la seconde partie. Louis Fontaine, à qui j'ai déjà dit bonjour tout à l'heure, même d'ailleurs je vous salue au micro, me semble-t-il, non?
Oui, hein, bon, voilà. Salué au micro, bonjour voilà. Daniel et bonjour aux auditeurs.
Alors Louis Fontaine est un écrivain, nous le connaissons, il est déjà venu plusieurs fois ici, il vient nous parler, nous régaler d'un magnifique petit ouvrage qui vient de paraître aux éditions Via Romana. La conte de Noël de tous les temps, c'est 10 petites histoires, enfin 10 belles histoires vraiment extraordinaires. Nous allons en parler avec lui également dans le studio. J'aurais dû commencer par les dames, mais voilà, l'ordre de passage est le monsieur d'abord. Bon. Alors, c'est Madeleine Hardy qui vient, elle, nous entretenir d'un ouvrage qui vient tout juste de paraître, comme celui d'ailleurs de Louis Fontaine, sur un personnage fort méconnu, je dois dire. Voilà, malheureusement méconnu, Antoine-Adolphe Dupuche, qui fut le premier évêque d'Alger de 1836 à 1846. Et le livre publié chez Aura Decima est sous-titré « Un pionnier de la mission à l'épreuve de la politique ». Et nous allons voir que ce livre, qui est une histoire d'un apostolat admirable, est aussi malheureusement l'histoire d'une mission qui n'a pas pu se faire pour des tas de raisons dont on va parler préface de notre chère amie Annie Laurent. Mais avant de vous passer la parole, madame et cher Louis, nous allons avoir très bientôt par téléphone une personne que j'ai l'habitude d'avoir une fois par mois, un jeune homme extrêmement valable, un bon combattant des bonnes causes et un rédacteur en chef d'un journal qui vient de reparaître depuis quelques mois, exactement depuis un peu plus de 6 mois. Il s'agit du mensuel Le Choc du Mois, la nouvelle série, qui est évidemment qui est le journal de référence et d'analyse que nous attendions tous depuis que la précédente série avait disparu il y a maintenant quand même une grosse dizaine d'années. Alors j'y ai tout le mal que je pensais du rédacteur en chef qui s'appelle monsieur Bruno Larobière, mais je crois qu'il est au téléphone, il a dû m'entendre dire du mal de lui. Bruno Larobière, vous m'entendez?
Oui, voilà. Malheureusement j'ai pas entendu toutes les méchancetés que vous avez dites.
Ben voilà, ben il faudra que vous achetiez la cassette parce que je vous en garantis qu'on repassera pas l'émission pour vous. Hein. Bon. Alors, je suis content de vous avoir comme chaque mois d'ailleurs pour parler de ce numéro du Choc du Mois qui vient de paraître. C'est le numéro de novembre, le numéro de décembre se prépare aussi. Il n'y a pas que la dinde et le foie gras qu'on prépare, on prépare aussi le numéro 6 du Choc du Mois, la rédaction du Choc du Mois.
On prépare le 7.
Oui, le 6 vient de paraître et c'est le 7 qui va paraître donc au mois de décembre.
Ça fait 6 mois, mine de rien.
C'est pas mal quand même.
Et je profite de cette occasion pour m'adresser à tous ceux qui nous ont dit au numéro 1, au numéro 2, on va attendre pour s'abonner, hein, on va attendre parce que est-ce que vous allez tenir, on en reparle dans quelques mois. Bon, ça fait 6 mois. Peut-être que
c'est le moment ou jamais.
Hein?
C'est le moment ou jamais de s'abonner. Maintenant, bon, voilà, le plus dur est fait. Hein. C'est les 6 premiers mois qui sont les plus dangereux. Mais une fois passé ce cap, en principe, vous devriez y aller jusqu'au numéro, je sais pas moi, 652 ou 438.
Il faut calculer sur Milan. Quoi.
Voilà, faut que calculer sur Milan, sur Turin, c'est comme vous voulez. Hein, c'est deux très belles villes de toutes les manières. Bruno Larobière, j'aimerais qu'on traite au téléphone et qu'on donne le goût aux auditeurs de se procurer, de s'abonner au Choc du Mois, évidemment. Mais je rappelle qu'on peut l'acheter en kiosque, il est présent dans tous les kiosques pour la modique somme de 6,50 €. C'est un magazine de grand format, couverture couleur, et, c'est une chose très très bien faite. Peut-être pourriez-vous, parce que ça c'est le dossier qui m'a le plus intéressé, vous me direz c'est le dossier de ce numéro du Choc du Mois, c'est sur les populismes en Europe. Alors déjà, je voudrais que vous hasardiez pour nos auditeurs une définition du populisme. Parce que moi j'ai toujours pas compris ce que c'est que le populisme. Si j'ai compris que c'était une arme dont se servait la pensée unique, le politiquement correct, l'extrême gauche, comme de grenade ou de cocktail Molotov, contre ceux qui seraient de la, qui seraient partie du populisme. Je ne sais pas ce que c'est que le populisme. Pourriez-vous éclairer ma lanterne, comme on disait sous la Révolution?
Je suis dans la même situation que vous. C'est extrêmement difficile à définir de façon univoque. Il y a des multiplicités de populisme. C'est vrai que c'est un terme qui a été utilisé et je ne comprends pas très bien pourquoi, pour diaboliser l'adversaire. Quand je dis que je ne comprends pas très bien pourquoi, c'est que jusque-là, on qualifiait l'adversaire de fasciste.
Oui.
On disait que c'était des mouvements d'extrême droite. À partir de là, il n'y avait plus de débat possible. Et puis, le terme populisme a fait son intrusion, et finalement, quelque part, il a rendu service. Parce qu'autant il était impossible d'assumer l'étiquette fasciste, ou d'accepter d'être positionné à l'extrême droite de l'échiquier politique, autant il est tout à fait possible, dialectiquement et sur le fond, d'admettre qu'on est populiste, parce que tout simplement on est en phase avec le peuple. Donc je pense que là il y a eu un raté dans la tentative de diabolisation, même si ça tendait quelque part à élargir le champ des personnes qui en étaient la cible. Mais le terme s'est tellement banalisé que tout le monde finit par se traiter de populiste et qu'on voit Ségolène Royal traiter Sarko de populiste.
Élysée de Versailles.
Élysée de Versailles.
Ouais.
Qu'est-ce que le populisme? Il y a une multiplicité de populisme en fonction des situations locales. Je crois qu'il y a des constantes. La constante, c'est le décalage entre le peuple et ses gouvernants. Alors, on peut appeler pays réel, pays légal, France d'en bas, France d'en haut, etc. Mais c'est l'incapacité du système représentatif à représenter, justement, les aspirations populaires. Ça, c'est une constante, quels que soient les pays. Et il y a aussi, même si elle n'est pas toujours formalisée de cette manière directe, il y a aussi une constante identitaire.
Oui.
Il y a un refus, alors, ici, de l'immigration, là-bas, du mondialisme, parfois des deux. Il est bien évident que le populisme français, ou flamand, ou serbe, sont distincts. Le populisme flamand est identitaire par essence, prône la séparation avec la Wallonie, donc on n'est pas dans un populisme nationaliste, comme en France, mais on est dans un populisme
séparatiste, identitaire.
En Serbie, je parle de la Serbie parce que nous y consacrons plusieurs pages avec un envoyé spécial qui a pu interviewer très longuement le vice-président du Parti radical serbe. En Serbie, évidemment, après les événements qu'on a connus...
il s'appelle votre vice-président, là, Tomislav Nikolic.
Ne demandez pas de le prononcer, s'il vous plaît.
Non, mais je le lis parce qu'on sache quoi, que le vice-président s'appelle Tomislav Nikolic.
On peut épeler son nom. Non, c'est Tomislav Nikolic.
Nikolic, c'est ça.
Le nom que j'ai du mal à prononcer, c'est celui du président du parti.
Ah, d'accord.
Et
celui qui l'a interviewé, oui, c'est ça.
Et voilà, que nous n'avons pas pu interviewer parce que il est momentanément retenu à La Haye.
D'accord.
Voilà, dans les prisons du tribunal pénal international. Le populisme serbe, il a une dimension anti-américaine et anti-mondialiste. Très affirmé.
Oui.
C'est également le cas des autres, mais par le biais du libéralisme, évidemment. Il y a une revendication sociale, il y a une revendication identitaire, il y a une affirmation la volonté d'imposer enfin sa volonté d'être entendu.
Oui. Est-ce qu'il n'y a pas justement, comme vous dites, moi je perçois aussi parfois une revendication dans le populisme, enfin dans les partis, les mouvements populistes qui pourrait s'apparenter à, disons, des valeurs, je mets des guillemets, de gauche, hein, sur la justice, plus de justice sociale, etc. Il y a aussi cette dimension dans le populisme qui le rend quand même pas du tout comme la caricature qu'en font les gros médias, quoi.
Bah, peut-être parce qu'on a une vision... Alors, le populisme est-il de droite ou de gauche? On peut y répondre. en fonction de la place qui est assignée aux partis politiques dits populistes, donc généralement de droite. Mais est-ce que, et ça c'est pas la très très bonne nouvelle, que la droite réinvestit le champ social?
Oui, peut-être. C'est une façon de voir les choses.
Moi, je le verrais plutôt
qui serait,
comme ça.
Ouais, ce qui serait un retour à ses sources, à ses vraies sources, en vérité.
À ses vraies sources. Ouais. J'ai toujours trouvé extrêmement déplaisant qu'on oppose la droite au social.
Oui.
Alors, on l'a fait à juste titre en France pendant très longtemps, parce que la droite avait déserté le champ social. Elle avait complètement abandonné au marxisme et aux différentes tendances de la gauche. Et elle se préoccupait d'économie, la gauche se préoccupait de social. Moi, dans ma formation politique, c'est pas cette droite-là qu'on m'a enseignée. Pour moi, la droite, par essence, est sociale, où elle n'a pas de raison d'être. Donc, c'est peut-être le retour d'une véritable droite qui revient à ses origines et qui fait enfin une bonne synthèse nationaliste ou identitaire et évidemment sociale. En étant bien évidemment débarrassé de l'essentiel du marxisme, puisqu'on se trouve dans une logique communautaire et non plus d'opposition de classe.
D'accord. Et il y a, bon, effectivement, une volonté de défendre son identité dans les moments où tant les pouvoirs étatiques que les pouvoirs supra-étatiques, comme l'Europe qui est en train de se construire, voudraient, en quelque sorte, écrabouiller tout ça et passer tout ça à la moulinette pour faire une espèce de homo europensis parfaitement standard et un peu standard à la façon des boulettes de viande qu'on met entre deux tranches d'éponge et qu'on appelle le hamburger. Non ? Ouais, un truc comme ça, quoi.
Oui, tout à fait. Il y a une volonté de sortir des systèmes.
D'accord.
Les systèmes imposés localement, le système européiste, le système, la grande organisation, le nouvel ordre mondial, en quelque sorte, et tous ces rejets qui pourraient produire des mouvements purement contestataires finissent par déboucher sur quelque chose qui est aussi positif. C'est ça qui me paraît aussi intéressant, c'est qu'on n'est pas dans la pure contestation. On a expliqué en France que le Front National est un mouvement protestataire pendant 30 ans, on finit par s'apercevoir qu'il y a un vote d'adhésion.
Un grand vote d'adhésion, et alors ça c'est valable pour beaucoup beaucoup de pays européens, que ce soit la Belgique, la Hongrie, enfin il y a vraiment ce qu'on appelle les populistes, ce sont des partis qui rassemblent sur leur programme ou sur les personnalités qui les dirigent beaucoup 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 d'électeurs. C'est un phénomène nouveau. Je parlais ce midi avec une personne d'un certain âge, dont je ne dirai pas le nom, mais que connaissent à peu près tout le monde, que connaît à peu près tout le monde ici, qui me dit c'est quand même extraordinaire. Il était à la fête des Bleus Blancs Rouges là ce week-end dernier, et il me disait, moi qui ai connu les années 50, la composition sociologique de l'actuelle fête des BBR est à peu près celle de la fête de l'humanité des années 50.
Ouais.
C'est très très populaire.
Ouais.
Et je lui dis, alors la fête de l'humanité, il me dit, en gros, pour l'essentiel, ce sont des bobos. Ce sont des bobos, c'est des bourgeois bohèmes, en gros c'est ça, qui vont un peu s'encanailler, qui vont se mettre un t-shirt avec Che Guevara, et puis un bonnet sur la tête, et puis qui vont aller chanter l'International, et puis en fumant un pétard, quoi. Bon, c'est à peu près ça, tout a vraiment beaucoup 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 changé. C'est très curieux.
Je crois que le Parti communiste a fait une erreur historique. C'est d'être devenu un jour de gauche. Mais oui, ça paraît paradoxal.
Pour oui, c'est paradoxal.
Mais je crois que si on
la revient, vous êtes paradoxal.
Mais oui, mais que si on y réfléchit, c'est l'erreur du Parti communiste. Qu'est-ce que ça veut dire être devenu de gauche? Il était à l'est, il était stalinien, il était ancré dans le peuple.
Oui.
Et il a été aussi patriote. Il l'a pas été toujours, mais je parle du militant de base.
Oui, bien sûr.
Le militant de base avait une culture aussi patriotique. Puis le Parti communiste s'est laissé influencer par l'idéologie dominante.
Ouais.
Peut-être n'avait-il pas d'autres portes de sortie après l'effondrement du bloc de l'Est, En tout cas, c'est la seule qu'il a trouvée, et je crois que c'est ce qui a précipité sa perte.
Eh bien, écoutez, je renvoie, si vous le voulez bien, je vous renvoie pas à la revient, mais je vous renvoie les auditeurs à la lecture du numéro 6 du Choc du Mois, donc partout en kiosque, comment c'est déjà le prix au numéro, 6,50 €. C'est quoi le tarif des abonnements, tiens, vous qui savez tout?
C'est une excellente question.
Voilà.
À laquelle je ne vais pas manquer de répondre dans quelques instants. Non, c'est 65 €.
65 € pour
65 € pour 11 numéros.
11 livraisons. 11 livraisons donc successives. Alors, on peut trouver ce journal dans tous les kiosques. Ici, on ne l'a pas dans un kiosque, on le demande et le kiosquier vous approvisionne avec ce numéro. À défaut, on peut envoyer son chèque ou sa demande d'abonnement, sa commande d'abonnement à Le Choc du Mois. 51 boulevard Garibaldi, 75 015, Paris.
Voilà, et si vous voulez un numéro, vous envoyez 6,50 €.
Si vous en voulez deux, 13.
Si vous voulez trois numéros.
Ah,
eh oui.
Ah,
l'offre
allez-y.
Spéciale courtoisie, comme tous les mois.
Ah, c'est bien, c'est l'offre courtoise, c'est gentil.
L'offre
ça.
Courtoise du mois.
Ouais, l'offre
trois numéros, trois exemplaires de ce même numéro sur le Populis, afin de permettre à ceux qui ont peu de moyens de le lire, afin de l'offrir à leurs enfants, etc. 12 €.
12 €, alors, bah, dites donc, là,
trois exemplaires, 12 €.
Bah, là, c'est cadeau, hein. Alors, bientôt, il y aura.
Un abonnement annuel, 65 €.
Eh bien écoutez, merci Bruno Larobière. Je pense que nous allons nous voir dans quelques jours, pas plus tard que lundi prochain à la mutualité, me semble-t-il.
Et puisque, j'en ai fortement question.
Voilà, puisque l'abbé Tanoir vient d'arriver, me faisait des signes désespérés, le signe du désespoir, là, qu'il fallait que je le sache. Voilà, vous
savez. Non, le signe surtout que les auditeurs pourront voir en chair et en os Bruno Larobière.
Plus en chair qu'en os, d'ailleurs.
Et l'admirer aussi brillant, puisque il y a eu un numéro du Choc du Mois, je crois, sur les cathos.
Oui, qui était pas mal fait, qui était très très bien fait.
Sur ce thème, ne tarit pas.
On vous attend lundi soir, donc, à la mutualité, cher Bruno Larobière, vous débattrez, je serai le modérateur de tout cela, donc croyez-moi, vous aurez beaucoup moins de temps pour vous exprimer que vous en avez eu ce soir. Ça, je peux vous le dire.
J'en prendrai beaucoup plus et avec beaucoup plus de véhémence, puisque nous serons là pour débattre.
Merci Bruno, bonne soirée et félicitations. Merci. Pour le numéro 6 du Choc du Mois. C'était Bruno Larobière, rédacteur en chef du Choc du Mois, qui nous a parlé du dossier de ce nouveau magazine mensuel dont le dossier principal est consacré au populisme en Europe, au populisme au pluriel en Europe. Eh bien, on saute comme ça, comme des cabris dans la montagne, on saute d'un sujet à l'autre. D'abord, donc, je salue l'arrivée dans le studio de l'abbé Guillaume de Tanoirne.
Bonsoir.
Prêtre, éditeur, directeur de la revue Objection et organisateur de grandes manifestations à la mutualité, dont celle dont nous allons parler tout à l'heure, le deuxième carrefour apostolique sur le thème « La tradition catholique, notre bien commun, ensemble pour la paix de l'Église et pour la paix dans l'Église aussi ».
Voilà, la paix de l'Église, c'est bien ça, enfin, historiquement, mais je pense que madame, vous en diriez peut-être plus que moi sur le fond.
Voilà. Alors, nous allons en parler un peu plus tard. Cher Louis Fontaine, j'avais eu le bonheur de vous recevoir il y a quelques années, à peu près à pareille époque, pour un premier volume, en fait, il y avait un premier volume de contes de Noël.
Contes et merveilles.
Contes et merveilles. Mais c'était il y a
trois ans.
Et alors, cette année, vous venez nous régaler, puis ça tombe à pic, hein, c'est parfait, parce que c'est la saison de Noël qui arrive, pour un magnifique petit bouquin de contes de Noël de tous les temps, publié aux éditions Via Romana. Alors, l'édition Via Romana, c'est une maison d'édition que dirige notre bon camarade Benoît Manchon. Donc, il y a que des bonnes personnes ici. C'est ça qui est formidable. Et c'est extraordinaire. Ce sont 10 contes.
10 histoires.
10 histoires qui toutes ont pour cadre Noël, un petit miracle de Noël. Soit parfois des grands miracles, soit parfois des petits miracles de Noël. Et qui se passent du Moyen-Âge jusqu'à nos jours.
À peu près.
Hein, oui. Presque, on peut dire.
Oui, oui, oui.
Bon, le dernier, c'est quoi? C'est les années 50
Il y a un dialogue de cloches dans Saint-Clocher. On pourrait dire même que c'est contemporain.
Oui, oui, c'est contemporain. Ça, le dialogue des cloches, mon cher, on l'aura jusqu'à la fin des temps. Hein. Bon, il n'y a pas de problème. Mais voilà, ça, c'est. Mais je dirais, bon, en gros, c'est un peu les années 50, si on veut.
Oui, si on veut
à peu près ça. Donc, disons, du Moyen-Âge, du 15e siècle jusqu'aux années 50. 10 petites histoires absolument magnifiques. Où est-ce que vous trouvez, vous trouvez toutes ces histoires?
Écoutez, j'ai la faiblesse de m'intéresser aux contes de Noël depuis l'âge de 20 ans. Hein. Alors, les premiers, je les ai écrits pour me faire plaisir, pour me prouver que je pouvais écrire des petites histoires. Et puis après, j'ai eu des enfants, j'ai eu beaucoup de neveux et nièces, et j'ai eu après beaucoup de petits-enfants, si bien que chaque année, je racontais des histoires, et l'idée m'est venue de les écrire, de les peaufiner un petit peu, et c'est comme ça que j'ai sorti il y a 3 ans, donc, ce premier livre. Et là, je le complète avec c'est des histoires pour des gens un petit peu plus âgés, ça peut être un...
Oui, des adolescents quand même.
Oui,
moi je dirais 12-13 ans, non?
Oui, à partir de 13-14 ans, quoi. Parce que, bon, la typographie d'ailleurs est faite en sorte que les jeunes puissent lire ça.
Le premier, par exemple, qui est une histoire de diable,
oui.
ça va bien pour des jeunes adolescents.
Bon, ben, là maintenant, avec Harry Potter, tout ça, ils ne regardent plus que ça que les gamins. Alors c'est pas ça qui va leur faire peur de tout faire bien
pour
vous
dire. De toute façon.
Mais
il y a des histoires plus sérieuses quand même qui sont tirées de récits véritables.
Hein. Bah, l'histoire du prêtre de Bon Noël d'Anne Évadé.
Oui, c'est une histoire véridique que j'ai réécrit à ma façon, mais dont j'avais les éléments directement de ce prêtre.
C'est très intéressant. Alors, bah oui, d'où vous viennent? Alors, est-ce que il n'y a pas que de l'imagination? Des fois, vous avez trouvé les thèmes quelque part dans la littérature populaire ou dans les traditions autres? Comment vous faites exactement?
Il y en a certains qui sont tirés presque d'une histoire familiale. C'est le fils du papetier, hein. Parce que la personne qui est citée dans ce conte, c'est mon arrière-grand-père qui était papetier à Paris et qui est mort fusillé par les Versaillais. Alors, pour une histoire que je raconte un petit peu, et dont le fils a voulu rentrer, est venu devenir prêtre, et ce qui l'a profondément choqué, parce que lui-même escomptait sur son fils pour prendre la succession de la papeterie. Voilà, alors je raconte un petit peu ça au milieu du siège de Paris.
Siège de 1870, oui. Ouais. C'est une très belle histoire. Alors vous en trouvez d'autres,
dont la naissance vient de paysages que je rencontre, de petites enquêtes que je mène dans certaines régions. Et bon, je suis séduit par les lieux, et puis l'histoire vient toute seule.
Alors, ce que j'aimais dans vos 10 contes, c'est d'abord le fait qu'il relève de différentes périodes. Je veux dire que ça aide beaucoup à la lecture pour les jeunes, parce qu'ils vont passer de l'époque Louis XV, ils vont remonter à Louis XIV, ils vont avoir le Moyen-Âge, ils vont avoir... ça c'est tout à fait extraordinaire, déjà, premièrement. Deuxièmement, c'est que c'est écrit avec une grande clarté, une grande précision.
Merci, Daniel, merci.
Non, je vais vous dire, non, c'est même... Ça apprend beaucoup de choses. Moi, j'ai appris des choses quand même sur des termes techniques, des termes de métier, des petits termes d'architecture.
Il y a des petites notes précieuses.
Il y a des petites notes qui sont extrêmement précieuses. Au début, ça m'avait gêné quand j'ai vu. Oh, j'ai dit, oh non, un livre de contes avec des notes en bas de poche quand même. Oui, mais non, parce que
ma diablerie,
ça restitue une ambiance. Enfin, vraiment,
voilà
ce que j'ai senti en lisant. Et vraiment, c'est...
Moi, je savais pas que le madrier qui portait les cloches s'appelait un mouton. Je sais pas pourquoi ça s'appelle un mouton. D'ailleurs, je sais toujours pas pourquoi ça s'appelle un mouton, mais je sais que ça s'appelle un mouton. Alors, il y a tas de choses. Sur la fabrication du papier, maintenant, je suis bon comme tout. Hein. Là, je sais faire. Hein. Là, je sais faire. Faut dire que j'étais allé dans un moulin chez Richard Debat. J'avais vu comment c'était fait le papier à l'ancienne, quoi. C'est bien ça.
Et cela dit, ça reste léger, si je peux me permettre.
Ah oui, c'est très très léger.
Il y a pas 36 000 notes, mais petites notations comme ça qui vraiment
ça nous rapporte des
nous reporte dans, voilà, dans
des,
l'ambiance
des, quoi, des petites des petites informations sympa. Et donc je voulais je sais pas vous dire lequel m'a plu le plus maintenant, peut-être avec ce que vous venez de me dire, mais ça c'est parce que je ne le savais pas. Que le fils du papier était donc un aïeul.
Mais non, enfin,
alors je la relirai avec en pensant davantage à vous, parce qu'elle m'avait beaucoup plu. Et Chacune de ces histoires, donc bien écrites, bien documentées, où on apprend des choses pratiques, en même temps, ce sont des contes de Noël. C'est-à dire que
il faut, termine bien,
il
non,
faut
le
que
jour
ça
de
se
Noël,
termine
hein.
Le jour de Noël est bien, et ça fait partie de tout ce qui nous enchante en fin de compte dans cette période dans laquelle on va tout bientôt rentrer, puis qui va nous achever.
Alors il y a quand même un conte un petit peu actuel, parce que je parle aussi des esclaves des Mahométans.
Oui, oui, tout à fait. C'est une très belle. Oui, mais c'est toujours intéressant à dire. Parce qu'il faut quand même rappeler, sans vouloir.
Il est très bien.
Ça se passe à Alger.
Nous allons en parler dans quelques instants. Ouais. Ça nous fera une très bonne transition. Il faut dire qu'à l'époque, n'est-ce pas, là, l'histoire se passe à l'époque de
un malheureux étudiant qui se fait
enlever.
Prendre par les musulmans.
Un petit français qui va faire des études en Italie, et il se fait enlever.
Et à Alger, il est racheté par un renégat. Voilà. Aussi un ancien chrétien.
Ce qui est très intéressant, c'est qu'à l'époque, il y avait beaucoup d'esclaves musulmans en Alger, mais il n'y avait point d'esclaves chrétiens
chez
les musulmans, mais il n'y avait point d'esclaves musulmans chez les Français, qui poussaient même d'ailleurs la complaisance jusqu'à autoriser, ce qui fut le cas sous Louis XVI, donc un peu plus tard que Tourville, à la construction d'une mosquée à Marseille, pour permettre un culte. À ces gens qui venaient d'Algérie sur des bateaux pour apporter du blé dur ou remporter des choses, eh bien, le roi leur avait permis d'avoir une mosquée.
C'est terriblement subversif ce que vous dites là, Daniel.
Oui, c'est très très subversif. Je ne pense pas que ce soit Louis XVI qui ait donné le branle à la multiplication champignonnesque des mosquées, mais il l'a autorisé.
C'est, je ne savais pas.
Et ben voilà. Ouais, vous savez, c'est une chose très intéressante. Mais la réciproque n'était pas vraie. Pas plus à l'époque qu'elle ne l'est dans certains pays musulmans aujourd'hui. Quoi, voilà. Et ben moi, je trouve que ce livre est absolument épatant. Vous verrez tout. C'est très très beau. Le petit fifre du Royal Auvergne. C'est une image. Alors ça, c'est très très mignon. C'est mignon. Ça, bon. Ça va plaire aux plus jeunes. Hein, c'est très très mignon. Vraiment, la crèche de Julien est aussi ravissante. C'est l'histoire d'un curé qui arrive dans une nouvelle paroisse. Et puis alors, il fait faire des crèches. Des petits enfants pour les catéchiser en même temps. Enfin, voilà, c'est une très 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 mignonne histoire qui nous replonge. C'est bien illustré. C'est des belles petites images, très bien lisses comme on aime. La couverture est absolument. On voit une chose comme ça. C'est-à-dire, on est à Noël. Elle est belle la couverture. Hein. Non, vous trouvez pas?
C'est mignonne. Oui.
Alors l'illustrateur est un ami. J'ai débuté ma vie dans l'édition il y a, mettons, 50 ans avec lui. Et c'est un illustrateur qui travaille toujours et qui travaille très bien.
Oh, c'est magnifique, il travaille admirablement bien. Regardez ce dessin quand même, et tout plein de voilà. Donc on rêve. Hein, c'est des dessins. On est le prêtre échappé là d'Allemagne.
On rêve et c'est précis
et
en même temps.
Et c'est précis. Donc l'esprit va beaucoup réfléchir sur toutes ces petites scènes, sur toutes ces histoires ravissantes, justes, pieuses, mais pas nunuches. Hein, parce qu'il y a aussi de la résistance à la foi ou à la religion, mais tout s'arrange bien à la fin, quoi.
Là, ça change un petit peu des événements actuels. Hein.
Voilà, ça change de beaucoup d'événements.
Ça permet de s'évader.
Voilà, ça va aller intelligemment. Hein. Moi, je crois que le mystère de Noël, c'est pas de nous faire échapper de la réalité, mais c'est par son côté merveilleux de nous permettre d'affronter mieux la réalité.
Que et on en a besoin en ce moment, hein, particulièrement.
Beaucoup. Alors, cher Louis Fontaine, vous allez dédicacer tous mes papiers, j'ai toutes mes antisèches. Louis Fontaine est un homme extrêmement pratique, il amène ces petits trucs, mais moi j'ai tout marqué sur des tas de fils de tous les côtés, j'en ai plein. Alors, vous retrouverez notre ami Louis Fontaine pour ce livre, Conte de Noël de
tous les... Dès demain.
Dès demain, je veux le dire, Louis. Conte de Noël de tous les temps, édité aux éditions Via Romana, c'est un ouvrage de 240 pages, 15 euros, donc c'est pas très cher.
Oui, c'est accessible.
C'est très accessible, et c'est un joli cadeau de Noël, donc...
J'y pense.
C'est charmant. Pour les jeunes, de 12-13 enfants qui sachent lire et puis qu'ils aient la curiosité, qu'ils aiment lire. Bon, il y en a quand même encore beaucoup, les enfants, tous les pas perdus, encore des bons gosses.
Un peu avant 13 ans.
Voilà, puis que ça, il y en a enfin. Bon, maintenant, on sait plus de trop. Il y en a même. Il y en a qui arrivent en fac. Il y en a qui arrivent en fac, ils n'arrivent même pas à faire les grosses lettres bâtons. Enfin, par exemple.
Jamais appris, de toute façon.
Ah, mais vous étiez institutrice, c'est autre chose. Vous travailliez, elle travaillait à la règle. Donc, elle a eu des très bons résultats.
Mais Daniel, après tout ce que vous avez dit, je crois que même des adultes pourraient le lire.
pas de mal.
Moi, je l'ai lu et j'y ai pris, comme pour les contes de Perrault, un énorme plaisir, un très grand plaisir. Donc, notre ami Louis Fontaine, qui est, je le dis, ça serait même pas notre entre nous, c'est pas la peine que la France entière le sache, c'est le papa de Rémy Fontaine.
Ah bon.
Que moi je m'obstine à appeler Romy. Bon, alors ça l'énerve, etc., qui a fait un très bon petit livre dans un autre genre, hein, qui n'est pas du tout conte de Noël, c'est... hein. C'est sur le livre noir des évêques de France.
Un petit peu explosif.
Un peu différent, voilà, mais c'est un bon, voilà, encore une très bonne personne, Romy, et on a toujours plaisir à le recevoir ici, ainsi que son papa quand il nous fait des beaux livres comme ça. Donc vous dédicacerez ce livre et peut-être d'autres aussi, non? Ou juste celui-là?
Ah bah oui, probable. Quand...
S'il reste encore un peu Contes et Merveilles, de peut-être
oui,
en rester,
bien,
non
bien
c'est
sûr,
pas mal, hein.
Et puis le sang et la gloire aussi.
C'était joli, c'est des beaux livres tout ça. Bon. Alors, voilà notre ami Louis Fontaine qui dédicacera dès demain, pour les auditeurs qui nous écoutent en direct, aujourd'hui, pour les auditeurs qui nous écoutent en rediffusion demain, à la librairie France Livre, 6 rue du Petit Pont, Paris 5e, de 15h à 18h. Là, ça va bousculer, se bousculer à la rue du Petit Pont toute la semaine. Ensuite, le samedi 18 novembre, notre ami Louis Fontaine dédicacera pour la première vente de Noël du collège Padre Pio à partir de 15h. Alors, c'est où ça, le collège Padre
Alors,
Pio?
Alors, c'est un collège libre qui est à Saint-Maur.
À Saint-Maur, voilà.
Et là, j'ai peut-être pas la documentation. Ah,
voilà, bon, bah, alors, il faudra le demander. Alors, je sais pas comment, parce que l'adresse n'est pas marquée dessus. En tout cas, ce qui est très intéressant ce jour-là, c'est qu'il est avec Romy Fontaine. Donc, très bien, ça peut faire d'une pierre deux coups. Le samedi 2 décembre, à la librairie Duquesne, 27 avenue Duquesne, 75007 Paris, de 15h à 18h. Puis, je fais la totale à Louis Méric quand même. Hein. Le dimanche 10 décembre, à la journée de Renaissance catholique à Villepreux, où je serai, où Xavier Martin sera, où vous serez la meilleure, enfin tout le monde est là. C'est là. J'espère qu'il ne va pas lui mettre une bombe atomique là-dessus, parce que là, on est tous, c'est fini, il n'y a plus rien. Bon. Puis, pour terminer, de nouveau à la librairie France Livre, le jeudi 21 décembre, dans le stress des derniers achats de Noël, si vous ne savez pas quoi, vous vous précipitez à la librairie France Livre, où notre ami Louis Fontaine dédicacera de 15h à 18h, donc le 21 décembre, toujours à la librairie France Livre.
Alors je signale quand même que le collège
Padre
Libre,
Pio.
Padre Pio, est un collège libre et qu'il faut soutenir.
Totalement libre.
Alors, il se trouve à Saint-Maur.
Libre et catholique, je le précise. Alors un auditeur, parce qu'il s'en trouve toujours, qui ont ce genre d'adresse, ou même un des animateurs du collège Padre Pio, avait la gentillesse, avant la fin de cette émission, de nous donner un petit coup de téléphone pour nous donner les coordonnées, nous donnerions volontiers l'adresse et les téléphones du collège Padre Pio, mais là, nous ne l'avons pas.
Je suis désolé, j'ai dû l'oublier.
Ah ben, vous serez fusillé sévèrement. Pas de problème avec des balouilles. Bon,
sévèrement,
merci Louis Fontaine. Et donc, à demain la librairie France Livre pour nos amis qui nous écoutent en direct et à cet après-midi.
Merci Daniel de tous vos compliments pour mon livre.
Ah ben, ils sont sincères, sans quoi je ne vous aurais pas invité. Hein, vraiment, j'en invite pas les gens pour les disputer, ça, c'est très rare. Mais en tous les cas, votre livre est agréable, passionnant, plein d'enseignements, bonne petite lecture, puis ça se lit vite. Bon, voilà. Avant de passer au second livre, nous allons faire une espèce de petite pause pour nous préparer avec Madeleine Hardy à cette histoire émouvante, édifiante et hélas triste d'Antoine Dupuche, premier évêque d'Alger.
C'est pas très triste, c'est un peu triste, mais c'est pas dramatique. Non, avec lui c'était jamais triste.
Oui, mais quand même, le résultat, hélas, n'était pas à la hauteur des ambitions extraordinaires.
Oui, mais il a continué après lui, le résultat.
Oui.
Et il a semé, ça a poussé.
Bon. Alors, tant mieux, ça me désespère, moi.
Non.
Je voudrais quand même tourner, parce qu'il faut quand même que vous travailliez un peu de temps en temps. Vous allez d'abord, je vous avais demandé si vous pouviez nous faire quelques petites lectures de communiqués.
Mais tout à l'heure.
Non, maintenant.
Ben non.
Vous pouvez pas. Mais c'est bien la peine d'avoir une assistante. On la paye une fortune, elle se refuse absolument à faire le boulot pour laquelle elle est payée.
Je peux vous en dire une petite, là.
Oui, une ch'ti.
Le Centre Saint-Paul, 12 rue Saint-Joseph, Paris 2e, vous invite à la conférence d'Olivier de Bois-Boissel sur le thème André Breton ou le droit à la révolte contre Dieu. Le mardi 21 novembre à 20h, donc 12 rue Saint-Joseph. Voilà.
Alors vous avez décidé de faire de la peine et de refuser absolument tous les communiqués. Bon, voilà, donc je suis désolé, elle
J'ai été envahie par des papiers que vous n'avez pas voulu que je traite et moi je les ai classés.
Écoutez-moi, je profite de ce que vous n'ayez pas d'autres messages, enfin que vous avez trop de messages.
Il y a un message personnel pour M. Tannoir.
Non, mais pour insister sur le fait qu'Olivier de Boisselle, qui parle donc au Centre Saint-Paul mardi prochain, mardi 21 novembre, est quelqu'un d'extrêmement brillant et qu'il vous expliquera le surréalisme, je crois, comme vous ne l'avez jamais compris. Ça mérite le détour.
Alors, il y a quelque chose d'autre qui est assez surréaliste et qui va se passer à Paris ce lundi 20 novembre prochain, c'est au Palais de la Mutualité, à 20h, c'est ce que vous appelez, cher abbé de Tannoir, le deuxième carrefour apostolique. Ensemble pour la paix de l'Église, où je vois qu'il y a des noms quand même extrêmement variés, voire peu fréquents dans vos réunions. Je vois ici.
Voilà, le souci, si vous voulez, que nous avons eu, c'est effectivement de montrer que au nom de la foi et en se dégageant de toute idéologie, de droite ou de gauche, eh bien, on pouvait mettre à la même table des catholiques de toute tendance. Et, surprise, quand on y réfléchit un peu, eh bien, on se rend compte qu'on est face au même problème. Pourquoi ? Parce que l'Église catholique vit depuis les années 70 sur, je dirais, d'immenses faux problèmes, d'immenses fausses questions qui ont constitué ce qu'on a appelé faussement la pastorale, avec un P majuscule. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, toutes ces questions sont dépassées, que le combat cesse de toute façon, faute de combattants, que la guerre de 70 est terminée, si vous me passez ce petit jeu de mots. Je parle évidemment de 1970 et de cette guerre interne dans l'Église catholique que tout le monde a souligné, et je dirais jusqu'à Coluche, dont tout le monde s'est scandalisé. Comme disait Coluche, avant c'était les catholiques qui se battaient contre les protestants, maintenant c'est les catholiques qui se battent entre eux, et je vous le donne Émile, ils se battent pour savoir s'il faut dire la messe en latin ou en français. Ils ont qu'à faire deux services. Alors, je sais bien que c'est pas très théologique, mais il me semble que c'est quand même le bon sens. Et que, je ne développe pas la théologie de Coluche, là, c'est pas ce que je veux dire. Hein.
D'autant plus que la théologie de Coluche
est un peu limitée. La théologie a ses exigences, bon, qui ne sont pas celles d'un humoriste, qui est forcément toujours du côté des rieurs, c'est-à-dire du public le plus facile. Mais, qu'on ne me fasse pas dire ce que je ne dis pas. Mais néanmoins, je crois qu'il y a quand même un certain bon sens dans tout ça. Il faut arrêter de se prendre la tête avec des idéologies dépassées, et il faut se dire maintenant ce qui est en jeu face à la montée de l'islam, c'est la survie du christianisme. Et cette survie du christianisme, eh bien, elle exige que les chrétiens cessent de donner le spectacle de leur division. Et elle exige que les évêques, comme le fait en ce moment avec beaucoup de prudence et de sagesse le cardinal Ricard, et je dis, quitte à choquer certains auditeurs, mais je le dis, le cardinal Ricard fait les choses dans ce sens de l'unité aujourd'hui, mais c'est nécessaire. Si les catholiques ne savent pas donner à nouveau le spectacle de leur unité, mais qu'est-ce que leur Église aura d'attractif pour les autres? Si entrer dans l'Église catholique, c'est entrer dans quantité de polémiques en plus dépassées, c'est pas la peine de se compliquer la vie. Voilà ce que
vous pourriez nous préciser un peu ce qui, dans votre sens, vous l'avez déjà dit, mais peut-être le redire et l'augmenter, ce qui vous semble, c'est objectif évidemment, mais pour nous, mais pour les auditeurs, ce qui vous semble aujourd'hui dépassé par rapport aux mentalités des années 70, vis-à-vis de celle d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui est fini, qu'est-ce qui est passé, qu'est-ce qui est passé de, à la fois de mode et passé d'usage?
Moi, je dirais deux choses principalement, mais merci de cette question, parce qu'effectivement, il faut être précis. La première chose, c'est la politisation de la religion qui a eu lieu dans les années 60 et 70, qui a donné lieu à un christianisme de gauche traitant le christianisme de droite d'intégrisme. Et là, je donne une référence très précise, hein, c'est l'appendice à vraie et fausse réforme dans l'église du cardinal Congar, grand ecclésiologue devant l'Éternel aujourd'hui. Eh bien, le cardinal Congar disait, qu'appelle-t-on un intégriste? Il écrit ça en 1960. Un intégriste, un catholique de droite. Et il écrit ça sans ciller. Donc, il importe dans l'église la dialectique mortel que le Parti communiste pratique au niveau de la société civile. Il n'est pas communiste, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas, mais il importe dans l'Église cette dialectique qui est une dialectique mortelle, qui va dresser les chrétiens les uns contre les autres et qui va tuer l'Église. Ça, il faut en finir avec ça. Je crois vraiment que aujourd'hui, on ne peut plus croire décemment à un idéal de gauche. Enfin, je crois que la gauche n'a plus d'idéal à proposer et que malheureusement, les chrétiens de gauche seront les derniers à rêver du paradis sur terre. Peut-être parce qu'ils ne croient, ceux qui en rêvent encore, alors je ne veux pas être trop polémique et me laisser aller peut-être à cette vis polémica. Bon, donc disons, je me censure. Mais je crois en tout cas, si vous voulez, que ce n'est plus aujourd'hui une bonne position que de vanter un catholicisme de gauche pour la bonne raison que la gauche est en panne d'idéal. Bon, une raison simple, voilà. Deuxième grande baderne qui me semble devoir être dépassée, mais alors là c'est peut-être un petit peu plus compliqué, je reconnais, c'est tout ce qu'on nous a beaucoup dit ces derniers temps sur la quête du sens. Vous savez, être chrétien c'est chercher le sens. Ben non, être chrétien c'est avoir trouvé le sens, c'est savoir où on va et pourquoi on agit, c'est être responsable de sa propre existence, c'est avoir reçu un certain nombre de talents, 2, 3, 4, 5, selon la parabole, et puis essayer de les faire fructifier. C'est ça, être chrétien. Bon, alors, c'est pas se dire, comme vous savez, la dernière affiche à propos des catéchismes, que vous avez pas vu ça? C'est grandes affiches.
J'ai trouvé un peu Bécassou, je me souviens plus, mais c'est un peu Bécassou.
C'est deux enfants qui avaient à la lampe de poche des chiffres, des signes cabalistiques dans un souterrain, et qui cherchent des pistes. Eh ben, écoutez, moi je m'adresse aux chrétiens qui m'entendent, hein. Si vous expliquez ça à vos enfants, si vous leur dites, écoutez, être chrétien c'est chercher des pistes, je pense que vous n'allez pas transmettre grand chose.
Non mais vous allez les amener au ski, quoi.
Donc je pense que...
Madame.
Excusez-moi.
Oui, Madeleine Hardy. Parlez bien dans le micro.
Oui, ce n'est pas d'aujourd'hui. Moi, j'ai fait le catéchisme très longtemps. Et quand on a commencé dans les fiches de catéchisme qui ont remplacé les livres de catéchisme à tout poser au style interrogatif, ça a été le démarrage de tout.
Et voilà.
C'est exactement ça. Le chrétien, il est arrivé.
Et ça, je crois, si vous voulez, que...
On fait des péchés, on continue à faire des péchés, mais quand on est chrétien et qu'on croit, on sait qu'on est là.
Et ça, je crois que la situation est aujourd'hui suffisamment terrible pour le christianisme pour qu'on ait dépassé ce stade, cette espèce de stade de luxe où on se paie le luxe de dire sa foi avec un point d'interrogation en permanence.
Mais la foi, c'est le credo, alors, c'est pas un point d'interrogation.
Où on se dit, la foi, ce n'est pas la vérité, c'est un sens possible.
Voilà une piste de travail, de recherche pour des jeunes, qui serait de reprendre un certain nombre de documents épiscopaux et de les scruter avec le moyen le plus facile, qui est celui de la reconnaissance par Word, vous savez, par des systèmes où on peut voir tous les signes, de calculer le nombre de points d'interrogation qu'il y a dans les textes épiscopaux. J'ai dans le dernier, j'en avais fait moi-même. C'est très drôle que vous me disiez ça.
Alors là, vous,
parce que
le dernier, c'est un peu la baroque, la baraque, parce que moi, pas ça. Mais moi, je crois vraiment que ça, c'est du passé. C'est-à-dire, oui, même c'est si ça existe encore, peut-être on y
dans le dernier texte, le dernier grand texte des évêques français sur alors un texte hallucinant sur les Français et la politique et les élections. Ce ne sont que des points d'interrogation. Les vraies questions ne sont pas posées. Quand on voit le discours des évêques américains, des catholiques américains sur les questions, quelles sont les choses qui ne sont pas discutables, les cinq points sur lesquels on ne transira jamais, on ne votera jamais pour un candidat qui partage 1, 2, 3, 4 ou les 5 points ensemble, jamais, plutôt mourir. Bon. Alors que là, on est dans une espèce de chose qu'il faut toujours, faut chercher le sens et tout. Alors, tout n'est pas mauvais dans ce texte, mais il y a des points d'interrogation quasiment toutes les 2-3 lignes.
Il ne faut pas perdre son temps à les compter. Il faut faire autre chose.
Oui, voilà.
Et moi, je crois, c'est un petit peu le pari qu'on a fait dans cette soirée. Je crois que tous les chrétiens aujourd'hui se rendent compte que ces deux aspects de la rhétorique post-conciliaire ont vécu, que ça c'est fini, qu'il ne s'agit pas de défendre les avantages acquis par un clan dans les années 70, que c'est terminé, que le temps a avancé, qu'il y a une solution biologique à la crise de l'Église, et que maintenant il faut proposer des choses. Et ce que nous voudrions faire, si vous voulez, aussi, c'est montrer que le christianisme est aujourd'hui séduisant, attractif, et que ceux qui s'en sont un peu éloignés, vous savez, tous ces paroissiens qui ont quitté les églises sans bruit parce qu'ils se sont dit, ils sont complètement fous, et je pense qu'il y en a un certain nombre qui m'entendent en ce moment.
Il y a ceux qui claquent la porte et ceux qui partent sur la pointe des pieds, et ce sont les plus nombreux, c'est ce gros.
Exactement. Eh bien, que ceux-là se disent, je vais avoir la curiosité de voir ce qu'ils proposent. Parce que aujourd'hui, encore une fois, on ne peut plus se payer le luxe de cette fausse rhétorique. Et ce qu'il faut proposer, eh bien, c'est la foi, bien sûr, mais la foi. Il faut aussi proposer, je dirais, la puissance de la tradition. La puissance des formes de la tradition catholique. Forme liturgique, forme théologique. Vous savez, quand on parle de la liturgie, par exemple, c'est même pas une question de grand syllogisme et de choses très compliquées. Il y a une liturgie qui a une puissance spirituelle et il y a une liturgie qui est un bavardage. Bon, il faut éviter le bavardage et il faut aller à la puissance spirituelle. Pour aller à la puissance spirituelle, il faut aller à la sécurité, c'est-à-dire à la tradition. Et je crois vraiment que cette perspective est celle du pape Benoît XVI, qu'elle a été celle de la fin du pontificat de Jean-Paul II, en grande partie sous l'impulsion du cardinal Ratzinger, et qu'aujourd'hui, nous, fidèles, il faut que nous disions, on a entendu le message, très Saint-Père, on est avec vous, et on marche, et on a besoin de cette liturgie forte, de ces messes du dimanche qui ne soient pas des bavardages emmerdants, mais qui soient vraiment une adresse à Dieu, qui change notre quotidien, qui transfigure notre vie. Voilà.
Alors, je rappelle.
Alors, c'est tout ça que nous pouvons proposer.
Alors, donc, nous sommes sur Radio Courtoisie, la radio du pays réel, de la francophonie, ce que j'appelle désormais la majorité invisible, puisqu'il y a des minorités visibles, donc il faut bien qu'il y ait une majorité invisible, ça tombe sous le sort. Donc, nous sommes la radio, j'ai décrété que nous sommes la radio de la majorité invisible. Voilà. Et qui nous écoute très nombreux. Et en plus, c'est invisible, puisque on la voit pas non plus. Voilà, bon. Alors, monsieur l'abbé, donc, Victoria est plongée dans les papiers, ça fait, elle est là depuis 3 heures, elle lit. Ben,
Je voudrais juste dire un petit truc ensuite, parce que justement, pour
vous avez
Victoria,
le droit encore, parce que vous allez nous dire le programme.
Voilà.
Il faut donner le programme de lundi pour donner à nos amis l'envie de venir, parce que les portes vont s'ouvrir à 19h30, et puis ça va se terminer aux heures passées, mais vous allez avoir beaucoup, beaucoup de choses à voir, des carrefours, des exposés, des tables rondes, des machins, des trucs, alors allez-y.
Alors écoutez, je ne vais pas vous détailler le programme. Je voudrais d'abord dire que j'ai invité à cette soirée absolument tout le monde, sur le seul critère de la foi de gauche à droite. Que Jean-Pierre Denis, directeur de la rédaction de La Vie, a accepté de venir avec beaucoup de courage, de noblesse, et je pense que nous pourrons essayer de lui montrer que nous sommes sensibles à ce courage et à cette noblesse d'un chrétien de gauche, justement. et que nous l'entendrons. Il m'a dit lui-même, je ne suis pas là pour défendre les années 70. Et je crois que c'est vraiment une opinion unanime et que là-dessus, nous pouvons tous être d'accord. J'ai invité aussi la Fraternité Saint-Pédis, la première, c'est simple. Je suis un ancien prêtre de la Fraternité Saint-Pédis, pour les fidèles qui... pour les auditeurs, pardon, qui ne le savent pas. Oui, ça c'est professionnel, pardon. Lapsus. Et il m'a paru tout à fait naturel, enfin, d'appeler l'abbé de Cacret. J'ai discuté avec lui pendant 25 minutes, très agréablement, très à fond, mais l'abbé de Cacret n'a laissé aucune porte ouverte à une participation quelconque. J'ai aussi fait signe à l'archevêché de Paris, qui jusqu'à aujourd'hui étudie la possibilité de sa participation. Écoutez, je rencontre Monseigneur 23 après-demain, vendredi, donc je lui reposerai la question. C'est très facile pour lui de désigner tel théologien de l'école cathédrale ou tel prêtre qui aurait un peu de temps ce lundi soir à venir, voyant de la lumière à la mutualité. Il sera très bien reçu. Et je pense que ce serait un signe très fort pour les catholiques de la capitale et en particulier pour tous ceux qui sont devenus, il faut le dire, un petit peu anticlérical. Il ne faudrait pas que cela dure. Il faudrait que cet anticléricalisme des laïcs cesse par ce genre de signe fort. Donc, je dis deux mots du programme...
Et vous me rendrez après, s'il vous plaît.
Oui, c'est parce que je ne l'ai pas apporté. Oui. Je dis deux mots du programme en disant simplement qu'il y a trois parties. Une partie sur l'actualité du moment, c'est-à-dire que nous voulons, en tant que... c'est donc l'Institut du Bon Pasteur qui organise cette soirée, c'est la tradition en marche, et nous voudrions répondre aux évêques de France et à l'Assemblée de Lourdes. Et je pense que c'est très important parce que ce qui s'est passé à l'Assemblée de Lourdes est finalement très positif. Et je l'expliquerai, ou l'abbé Héry précisément d'ailleurs l'expliquera. Il y aura ensuite donc un débat contradictoire, comment sortir des années 70. On est tous d'accord, et c'est quand même déjà un point de départ. Pour être assis à la même table, il faut être d'accord sur quelque chose. On est d'accord sur la foi, et on est d'accord sur le fait qu'il faut sortir des années 70. Sur ce point, on est d'accord. Maintenant, comment ? Donc, c'est le redoutable débat que vous aurez à arbitrer. Je pense qu'il y a des calibres.
Je modère. Moi, mon travail, c'est de dire, vous avez tant de paroles, vous parlez tant de temps, puis après, c'est fini. Taisez-vous, monsieur l'abbé, taisez-vous, El Kabache. Puis voilà, c'est tout, quoi.
Et puis, ensuite, il y aura donc une disputatio théologique en fin de soirée. Donc, j'ai bien conscience que peut-être certains préféreront rentrer. Il sera 22h40 quand même quand la disputatio commencera. Mais pour les volontaires, c'est, je pense, intéressant de se poser les solutions théologiques après Vatican II.
De toute façon, le prix du billet est le même.
Il ne suffit pas de dire que la rhétorique de Vatican II ne marche pas ou que la rhétorique post-conciliaire plutôt ne marche pas, et comme je viens de le faire, il faut encore essayer de proposer des solutions. Voilà un petit peu les trois parties. Merci.
Il faut donner, alors c'est à la mutualité à Paris, donc lundi soir,
voilà.
Il faut être là à partir de 19h30.
20h.
19h30, 20h, voilà. Parce que le nombre de places est limité.
Oui.
Et ça coûte combien pour rentrer dans...
Ça coûte 10 euros. Il y a beaucoup de tarifs réduits possibles.
Bon, 10 euros pour...
selon les...
10 euros pour repartir, c'est extraordinaire.
Les ecclésiastiques, c'est gratuit.
Enfin, c'est bien.
Et donc... Et tous les ecclésiastiques sont bienvenus.
Un téléphone pour nos auditeurs afin qu'ils puissent se renseigner, je vous prie.
Alors, c'est le 01 40 26 41 78. 01 40 26 41 78. Et je crois vraiment, si vous voulez, que c'est une première. C'est-à-dire qu'on n'avait jamais mis à la même table des chrétiens qui, selon cette ancienne dénomination qui, à mon avis, devrait sauter, sont des chrétiens de gauche à droite.
D'accord. Alors, merci, monsieur l'abbé de Tannouarn. Moi, j'ai un petit message, là, pas qu'on me traite de joli menteur. Ah, c'est vrai que je suis joli. Bon, alors quelqu'un, je ne sais pas qui c'est, il dit, il y avait des esclaves musulmans à Malte. Alors après, il y a une parenthèse, je ne sais pas si c'est une faute de français ou s'il manque un point d'interrogation. Qui a construit les remparts? Donc je pense que, ben non, je ne pense pas qu'il y avait des esclaves musulmans à Malte, qu'il y ait eu des prisonniers musulmans faits par l'ordre de Malte, c'est tout à fait vraisemblable. Et évidemment, ces prisonniers étaient utilisés à des travaux d'intérêt public qui consistait à fortifier la ville de Malte, voilà. Mais alors, je veux dire que vous me ferez quand même croire, monsieur ou madame, l'anonyme, que les navires chrétiens de la Méditerranée sillonnaient la Mare Nostrum pour faire esclaves des habitants ou des navigateurs musulmans. Il y a de quoi vraiment se taper le coquillard avec une panne de homard femelle. Franchement, des coups de tapis.
Ah, elle est pas mal celle-là, tiens.
C'est des trucs à Bekech. Des trucs à Bekech.
Ah, oui, vous les faites bien.
Oui. Alors allons-y, mon bel enfant. Dépêchons.
Alors, un auditeur nous dit.
Devant nous reste 4 minutes. Non, nous reste 30 minutes. Oui.
L'église est infiltrée, nous dit cet auditeur. Voyez donc les articles de Jean Madirand en présent. À Asnières, il est prévu une messe africaine. Je peux vous montrer le tract, monsieur l'abbé.
Oui, parce qu'on sait qu'il y aura ça. Enfin, continue encore, mais il y a aussi beaucoup des messes latines. Il y a beaucoup d'Africains qui adorent le grégorien.
Il y a beaucoup
d'Africains
qui aiment les messes latines.
Et qui chantent bien le grégorien.
Je peux en témoigner, parce que j'ai passé 2 ans.
Bon, oui, alors, faut tout ça, c'est très bien. Faut tout pour faire un monde.
Monsieur l'abbé de Tannouarn, hélas, la guerre de 70 n'est pas terminée. Car lorsqu'on veut faire signer la pétition pour soutenir le pape Benoît XVI, nos bons bourgeois bobos, moutons bêlants du catholicisme progressiste, refusent de signer.
Alors cette pétition, elle sera
disponible
ce soir-là, et vous pourrez la signer.
L'homme nouveau en a reçu des milliers et des milliers.
Très important, mais je voudrais dire à cet auditeur, qu'il a tout à fait, ou à cette auditrice, je ne sais pas, qu'il ou elle a tout à fait raison. De poser la question, parce que on va me dire que je suis d'un optimisme béat. Je ne suis pas optimiste, j'essaye de voir l'avenir. C'est vrai qu'aujourd'hui il y a encore beaucoup de crispations, et jusqu'au plus haut niveau dans l'église, mais je suis persuadé que tout ça est appelé à sauter et que nous allons avancer. Et pourquoi? Mais tout simplement parce que la situation a changé, et c'est pas nous qui l'avons fait changer, c'est en grande partie l'élection de Benoît XVI, puis c'est aussi parce que les choses humaine change.
Vous nous expliquerez lundi matin à partir de 20h à la mutualité. Ne commencez pas votre exposé
lundi
maintenant.
Matin,
alors rapidement, je voudrais des nouvelles.
C'est lundi soir. Hein,
attends,
soir à partir de 20h.
Oui. J'ai pas fini avec monsieur.
Non, mais on peut plus. Pas le temps. Je suis désolé, Victor, je n'ai plus le temps de les questions parce que je dois maintenant. Je suis désolé, je vous demanderai d'avoir la gentillesse de donner l'adresse de Padre Pio et de lire les deux petites annonces qu'on avait préparées. Je vous prie gentiment avant que je me fâche et que je vous tape. Je vais vous taper.
Bah oui, mais vous m'avez fait perdre mon fil.
Ah bah oui, bon, bah, bon
oh
alors.
Là.
Bon, alors, Père Lévio, on cherchait le téléphone de Père Lévio.
Non, mais c'est parce que... je peux vous dire le collège privé hors contact qui monte?
Oui, c'est Padre Pio.
Voilà.
C'est celui dont on a causé tout à l'heure. On cherchait le téléphone.
Et alors, le collège, je rappelle l'adresse, collège Padre Pio. Tous les auditeurs me disent 55 rue du Pont de Créteil, et leur papier à eux dit 45, mais enfin, entre les deux, vous vous débrouillez. 94 100 Saint-Maur des Fossés, et le téléphone 01 55 96 38 06. Je répète, puisqu'ils me font rire. 01 55 96 38 06. Et attention, cramponnez-vous, parce que j'adore les adresses Internet. En un seul mot, enfin attaché, collège Padre Pio @wanadoo.fr. Voilà.
Merci Victoria.
Mais non, c'est pas tout.
Quoi?
Attendez, y a le Louis Fontaine.
Mais ça y est, c'est fait.
Vous l'avez déjà dit.
Ben voilà, pour Louis Fontaine.
Et la vente de Noël du collège Padre Pio.
Bon, on vient de parler on va pas parler tout.
Samedi 18 novembre de 18 à 18h, de 11 à 10, enfin bon.
Bon voilà, ça y est, c'est fait. Merci Victoria.
Et puis je peux pas vous demander l'internet de l'abbé Tannouarn.
Oh, très simplement, parce que je l'ai plus en tête. Vous faites sur Google Centre Saint-Paul et vous mettez Tannouarn, T-A-N-O-U-A-R-N, et ça, on arrive dessus. Je suis désolé, mais j'ai
Madeleine Hardy. Enfin, nous allons parler d'Antoine Dupuche. Vous avez de la patience.
Eh bien, oui,
quand
je
même,
suis venu pour ça.
Premier évêque d'Alger, 1838-1846, à la maison Aura Décima, qui est une petite maison très courageuse, qui fait
très
de fort bons livres.
Nouvelles, oui. et qui les fait bien.
Ils font d'excellents petits bouquins.
Et qui les
alors,
bien.
Comme le dit Annie Laurent dans sa préface, votre travail est, je dirais, un acte de piété familiale, nationale et catholique, parce que vous êtes vous-même parente, indirectement.
Nièce
de
Monseigneur Dupuche. Voilà. Alors c'est vrai que ça a commencé par de la piété filiale, parce que ma première idée était de le faire pour que son nom... On n'en parlait plus personne n'en parlait jamais de Monseigneur Dupuche. Et c'était dommage, je me suis dit qu'il faudrait que mes enfants, mes petits-enfants sachent qu'il avait existé. Moi-même, je ne connaissais pas grand-chose de lui, sauf qu'il avait existé et qu'il était de notre famille. Et puis, j'ai été un peu dépassée par les événements. Ce que j'ai découvert était tellement passionnant et tellement important que c'est devenu un peu de la piété pour l'Église et puis pour la France aussi, parce que tout était réuni là-dedans. C'est une œuvre missionnaire, mais c'est aussi une œuvre missionnaire qui se passe au moment où l'Algérie devient française. Et donc, tout était imbriqué. Et alors qu'au départ, je pensais à une petite plaquette de 25 pages, c'est devenu un livre à peu près 10 fois, à peu près.
Oui, quoi, ça fait 240 pages.
Oui, donc, vous voyez, à peu près.
Un énorme cahier photo.
Alors, je me suis passionnée. J'ai découvert, au fur et à mesure, j'ai écrit au fur et à mesure que je découvrais. Et en fait, j'ai découvert comme quelqu'un qui prendrait le livre et qui le découvrirait. Et ce qui m'a frappée, c'est que... Il s'est ouvert devant moi une avenue de gentillesse et d'accueil absolument dans tous les domaines. Que ça soit les archives de l'archevêché d'Alger, ceux de l'archevêché de Bordeaux, ceux de l'archevêché de Paris, les archives de tous les ordres religieux qu'il a implantés en Algérie, car il en a implanté beaucoup. Et tout un tas de personnes, beaucoup de personnes me disaient... Mais quel bonheur, vous allez reparler de Monseigneur Dupuche. Alors, j'étais presque honteuse que moi, sa petite nièce, je ne le connaisse pas alors que les gens le connaissaient. Et ça s'est fait dans l'amitié, dans la joie. Et alors, tout à l'heure, vous disiez que c'était une histoire terrible. Je n'avais pas pensé à ça. Il a beaucoup souffert, mais... Beaucoup de ceux qui ont donné à l'Église ont beaucoup souffert. Je dirais, ça n'a pas grande importance. Le travail s'est fait. Vous comprenez ? C'est une belle histoire. C'est pas une histoire triste. Et d'ailleurs, lui n'a jamais été triste. C'était un homme extrêmement, profondément heureux. Très bien dans sa peau, profondément heureux. Très espiègle comme enfant. Et il est resté très espiègle comme prêtre. Et comme évêque, j'ai quelquefois pleuré avec lui, souffert avec lui, mais j'ai bien ri aussi avec lui en l'écrivant. Il avait un sens de l'humour très, 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 très amusant. Et il m'a attendri. Et alors, je sais bien que ce qui intéresse le plus, c'est la partie, les 7 ans d'épiscopat.
Voilà.
Bon, parce que c'est ça qui fait que le livre est un peu hors norme. Sinon, ça serait l'histoire d'un saint prêtre. Mais je veux quand même, en tant que bordelaise...
Car vous venez de la région.
Je viens de Bordeaux
pour venir parler à Radio Courtoisie, c'est quand même très gentil.
Une petite parenthèse.
Et moi, j'y vais demain matin.
Et je suis heureuse, monsieur l'abbé, de ce que vous avez dit du cardinal Ricard, monseigneur Ricard, parce que il se situe pas exactement comme ça, mais je crois qu'il prend le problème bien honnêtement.
Mais je crois qu'il prend le problème de haut.
De haut, voilà.
Et
alors,
c'est indéniable.
Comme bordelaise, j'en suis très heureuse.
Absolument.
Alors, je reviens à mon Dupuche. Il n'aurait jamais été l'évêque qu'il a été en Algérie s'il n'avait pas d'abord été le prêtre qu'il a été à Bordeaux. Après de longues discussions, le Vatican a décidé de créer un évêché à Alger, pour toute l'Algérie d'ailleurs. Le mot Algérie n'existait pas, je pense, à cette époque-là. On disait Alger.
Allez-y, madame, bon, je vous en prie.
Alors, le mot Algérie ne s'employait pas du tout. Il était évêque d'Alger pour tout le territoire qui a été très vite appelé Algérie. Il y a eu beaucoup de discussions avec le Saint-Siège qui n'avait pas du tout le même la même vue du problème que le gouvernement de la monarchie de Juillet. Connaissant l'état d'esprit de la monarchie de Juillet, le Vatican aurait voulu garder le contrôle de l'évangélisation en Afrique du Nord, enfin en Algérie, disons, pour simplifier, ce qui est très compréhensible, mais ce qui n'était pas souhaitable, ce qui n'était pas exactement ce qu'il fallait si on voulait que l'Algérie devienne territoire français. Si c'est un territoire français avec des départements, il faut des évêchés. Sans ça,
c'était la position du gouvernement de Louis-Philippe, et position de Rome était la position plutôt disant c'est une terre de mission.
Voilà.
C'était plutôt vers un vicariat apostolique s'orientait à Rome, alors que les Français voulaient tout de suite un.
Mais c'était normal. Si on voulait que cette terre devienne terre de France, il fallait la traiter comme une terre de France. Le problème n'a pas été tellement là. Le problème, c'était qu'ils ne s'entendaient pas sur les mots. Et il y a évêque et évêque. Ils voulaient un évêque de parade qui aurait fait de très belles cérémonies parce que c'était bien pour le décorum. Ils ne voulaient pas d'un évêque missionnaire parce que la mission était n'entrait pas dans les vues du gouvernement de Louis-Philippe. Donc, c'était un évêque qui n'avait pas le droit d'être missionnaire. Alors,
c'était un super aumônier pour l'armée et les Européens.
Dans un article, un jour, dit une expression qui était très amusante et qui disait très bien ça, vraiment une question de décorum. Mais quand le directeur de l'intérieur, Mollé, a demandé conseil à Félix Dupanloup, qui n'était pas encore évêque et qui était un ami de séminaire, il y avait trois amis, Félix Dupanloup qui fut évêque d'Orléans, Alexandre Jacquemet qui fut évêque de Nantes et Antoine Dupuche qui a été évêque d'Alger. Ils avaient tous le même âge, ils ont été amis jusqu'à leur dernier jour, avec des tempéraments extrêmement différents. Et alors, Dupanloup, qui était très malin, très intelligent, a dit à Mollé, c'est Dupuche qu'il faut prendre. Et il l'a conseillé parce que Dupuche était un prêtre missionnaire. Il a participé à toutes les grandes missions du temps de la Restauration à Bordeaux. Il a fait des ravages dans ces missions. C'était vraiment un tempérament de missionnaire. Alors, il s'en est pas vanté en disant ça, l'abbé Dupanloup, mais il a dit, c'est celui-là qu'il faudrait prendre. Et Mollé, qui n'avait pas d'idée sur la question, l'a pris. Et alors, si ça s'est terminé de façon dramatique pour lui, c'est précisément parce qu'il a obéi au Saint-Père et il n'a pas obéi, il n'a pas suivi les consignes que lui demandait le. Alors, tant que le gouverneur général a été le général Vallée, qui par la suite fut maréchal, ça s'est très bien passé parce que le général Vallée était un grand croyant. C'est quand Bugeaud est arrivé. Alors là, ça a changé. Bon. Mais lui, lui, ça lui était complètement égal, vous comprenez. Lui, il faisait son boulot et il a fait un travail en 7 ans. Il a remis sur pied, il a remis sur pied une église dans les trois diocèses actuels, dans la totalité. Il a fait cela à une époque où c'était encore en état de guerre. La guerre n'était pas du tout finie. Il n'y avait pas de route. Il y avait deux façons de sillonner le diocèse, à cheval ou au cabotage, en bateau, qui suivait le long de la côte. Et il a parcouru son diocèse, heureusement c'était un cavalier depuis l'enfance, un homme, il a passé sa vie au galop. Même quand il n'était pas à cheval, il était au galop quand même. C'était une sorte de.
L'évêque au galop, c'est une jolie.
Mais vraiment, vous savez, je ris parce que. Il était au galop et il emmenait les prêtres au galop et alors c'était les terrains n'étaient pas encore conquis. Le gouvernement lui donnait quand même une escorte militaire pour qu'il puisse traverser, mais comme il ne voulait surtout pas qu'un soldat se fasse tuer pour le protéger, il renvoyait l'escorte militaire dès qu'il était dans une zone de guerre pour ne pas risquer de coûter la vie à un soldat. Et ce qui a été extraordinaire et qu'il faut dire parce que c'est ça qui est important. Pas un prêtre pendant ces 6 ans, et peut-être après, mais moi je ne parle que de la période que je connais, pas un prêtre n'a été inquiété, pas une religieuse n'a été inquiétée, ni blessée. Non seulement ils n'étaient pas inquiétés, mais ils étaient protégés par les indigènes. Ils étaient, quand ils renvoyaient les soldats, Antoine Dupuche, c'était souvent des Arabes qui venaient prendre le relais et qui les emmenaient jusqu'à un port. Parce que ils étaient sacrés pour eux. Ils ont compris tout de suite que l'évêque les aimait. Et cet homme, il aimait les gens, vous comprenez? Alors les gens l'aimaient.
Ça allait même plus loin, parce qu'il y a même des musulmans, des autorités musulmanes d'Algérie qui ont offert des mosquées.
Ils ont offert des mosquées.
Pour les transformer en lieu de culte catholique.
C'est stupéfiant.
Il y a eu des conversions.
À côté de quoi est-on passé?
Voilà, c'est ça.
C'est ça qui est dramatique.
Parce que tout à l'heure, vous disiez, bon, il partait avec ses prêtres au galop, tout ça, mais enfin, les prêtres, il n'en avait pas beaucoup, parce que.
Pas beaucoup,
C'est un évêque concordataire. Donc, ça veut dire que son salaire, et le salaire de ses prêtres, c'est donné par l'État. Il ne relève pas de la mission, des missions romaines, de la propagande à la foi. Il est vraiment là. Il a rien. C'était très très peu. 9 prêtres et pour un territoire grand comme la France.
Alors quand il est arrivé, il y en avait 4. Après, on lui en a assuré 9, mais ça ne suffisait pas. Il en a fait venir 7 à ses frais. C'est-à-dire que sur son, on ne va pas dire salaire, ça ne fait pas bien pour un évêque, sur son
traitement.
C'est le traitement,
sur son
traitement de
l'évêque concordataire.
Son traitement, qui était un beau traitement, je crois, 12 000 francs par an, il a quand même complètement supporté 7 prêtres à ses frais. Bon, heureusement, beaucoup de congrégations religieuses, énormément de congrégations religieuses sont venues. Alors, Bugeaud a été d'accord pour les jésuites. Bugeaud était très pragmatique. Et si quelque chose pouvait servir à la colonisation, dans ce domaine-là, il n'était pas bêtement contre, vous comprenez? Mais enfin, il a quand même dit, Bugeaud, si j'apprends un jour qu'un prêtre, parlant l'arabe, à parler de Dieu à un indigène, il sera reconduit immédiatement en France.
C'était complètement vraisemblable.
Oui. Et Bugeaud est dans l'anticléricalisme révolutionnaire.
Il s'est toujours très mal comporté pendant la guerre d'Espagne. Oui. Il s'est très mal comporté.
Voilà. Bon, il a des antécédents.
Oui, il a de gros antécédents. Il a été gardien de la duchesse d'Angoulême. Ceci dit, c'est un soldat valeureux. Personne n'est que défaut, quoi. Tout le monde a des qualités. Et alors. Il y a eu d'une part quand même cette implantation qu'il a faite qui n'était pas nouvelle parce que toute l'Algérie avait été chrétienne. N'oublions pas qu'il est le successeur direct de Saint-Augustin. Il y a eu, alors là je ne veux pas vous dire une bêtise, je suis incapable de vous dire si c'est 300 ou 600 évêchés en Algérie.
Oui, c'était
une grosse paroisse. C'était pas un évêché de maintenant. Et alors,
je préconise, comme grande réforme de l'église post-conciliaire, c'est de faire de tout petits évêchés en France avec de très nombreux évêques, très proches de leurs ouailles.
Il n'y aura plus que des évêques.
Oui, mais...
Est-ce que je peux
vous savez, et je ne dis pas ça pour moi, mais le sacerdoce, normalement, c'est l'épiscopat, en fait. Le sacerdoce plein, c'est l'épiscopat.
Oui, plein.